t'investis dans une boîte qui fait 100 000 euros par mois. Et t'as un business plan, il y a écrit 220 000 euros par mois fin d'année, par exemple. 220 000, c'est sympa, tu vois. Et donc là, je vais poser la question vraiment débile, hein. Je vais dire, pourquoi tu n'as pas 1 million d'euros à la fin d'année? Et là, le mec va réfléchir, en fait, c'est pas poser la question. Quand tu micromanages, la conséquence, c'est que les gens peuvent partir. Personne n'aime être micromanagé. Et néanmoins, si tu prends toutes les boîtes qu'on cartonnait, tous les CEO sont tous des malades du micromanagement.
Toi, est-ce que tu considères que c'est ton rôle principal en tant que CEO de maintenir cette culture de « on peut penser plus grand, on peut rêver plus grand » ?
Toute négociation, si t'es pas prêt à perdre, t'as perdu.
Bah déjà, pour démarrer, se mettre bien dans l'ambiance, moi, un des challenges que je vais rencontrer, c'est l'arbitrage. Toi, quand j'étais avec Mazella, Fred Mazella, je lui demandais c'était quoi un des conseils de ses investisseurs. Et il me parlait du focus, le fait de se focaliser sur une chose et de bien le faire. Je vais avoir tendance à aimer lancer plein de trucs différents. C'est un dilemme permanent pour moi entre cette notion de focus, et c'est de mieux faire marcher ce qui marche déjà, avec la friction interne de me dire ouais, mais ça marche déjà, mais si ça se trouve, ça ne marche pas vraiment parce que j'ai pas de contrat. C'est ce qui marche le mieux. Peut-être qu'on pourrait faire un truc qui marche 10 fois plus. Et de l'autre côté, tester des trucs nouveaux qui peuvent être ce truc qui d'un coup fait tout exploser, cette nouvelle branche qui devient principale, et avec la question du coup de la dispersion. Comment toi t'arbitres ça en fait ?
Je commence à me défocus, gros guillemets au mot défocus, donc à faire une deuxième chose, une troisième, une douzième, lorsque je vois la fin du premier. En général, je fais ça comme ça. Si je veux faire une boîte qui fait n'importe quoi, 1 million de chiffre d'affaires, 10 millions, une boîte qui fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et que j'en suis, c'est en troisième année, tu fais déjà 7 millions. Tu vois le truc s'arrêter. Tu vas pas commencer à réfléchir au next step quand t'arrives à 10. C'est pas possible ça. Du coup, il y a bien quelqu'un dans la boîte qui doit 2 minutes prendre du recul pendant que tout le monde cravache et tête dans le guidon, et etc.
Pour aller au 10.
Pour aller au 10, on se demandait ce qu'on fait derrière, quoi. Et donc, ça, je considère que c'est assez fréquemment le rôle du CEO. Et donc, j'ai des sujets qui ont avancé très, très, très bien. Et je me dis, c'est cool, je vais vous. Tiens, les 100 millions d'euros, je les vois. Bon, moi, c'est pas ce que j'ai signé auprès d'investisseurs, auprès de moi-même, moralement d'ailleurs, etc. D'aller faire, par exemple, j'ai n'importe quoi, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Je vois très bien que mon marché va saturer à 100 millions. Si je fais des casques de vélo, j'en vendrai pas 400 000 s'il y a 100 000 vélos en France, quoi. C'est très simple. Donc, si j'ai déjà vendu mes 50 000 casques, ça fait déjà la moitié du marché. On peut considérer que je commence à atteindre la part de marché maximale que je vais avoir s'il y a un peu de concurrents qui font le reste. Du coup, la question, c'est je fais quoi derrière, quoi. Donc, avec des casques, tu peux commencer à faire d'autres accessoires de vélo. Tu peux regarder un utilisateur de tes casques de vélo, de quoi il a besoin en plus, peut-être de gants, j'en sais rien. Et tu commences à regarder comment tu te sers de ton expérience passée ou du produit que tu as déjà pour aller faire autre chose auprès potentiellement des mêmes utilisateurs. Ou alors, tu peux pas aller voir d'autres utilisateurs, par exemple des casques de moto, ce genre de choses. Mais si personne ne le fait, tu vas arriver tout doucement, ça va être top. Côté média, côté investisseur, côté qui tu veux, personne ne verra le mur arriver. Donc c'est top. D'un coup, tu arrives à 10 millions et voilà. Et tu fais plus rien. Donc l'année d'après, tu fais encore 10, puis tu fais encore 10, etc. Donc c'est un juste milieu. Si tu lances 12 projets en même temps, ton truc principal qui te rapporte du trafic, par exemple, de personnes qui regardent le show, etc., tu t'en défocuses complètement, que ton show devient moins bien préparé, que, etc., etc., ben là, tu vas perdre une partie de ton business, donc il va y avoir un problème. Et donc, c'est un juste milieu entre faire très bien ton premier taf qui te fait vivre et passer prendre du recul. C'est un des plus gros problèmes que j'ai en interne. Hein. Je me bats avec les gens là-dessus. C'est, je vais demander à quelqu'un qui va gérer le produit de quelque chose, par exemple, je vais dire, voilà, on a sorti une première version d'un software, et c'est un software qui fait que ça, de la retouche de cheveux. Ok, il sort son truc, ça fait 3 mois qu'il travaille pour avoir une interface qui est jolie, qui sort des cheveux qui sont jolis. Ok, et à un moment, je vais faire, ok, bon, le produit sort en 2 semaines, on fait quoi après ? T'as une vision à 9 mois ? C'est-à-dire que si tu me dis pas, moi, où est-ce qu'on va à 9 mois, je sais pas, on va dans 3 mois. Je peux pas savoir ça. Faut que tu vises 9 mois, 12 mois, 18 mois, et que tu reviennes en arrière, et tu me dis, du coup, dans le trimestre prochain, il faut que je sois là. Du coup, on se rend compte qu'il manque des gens, faut recruter maintenant, etc. Tu vois. Et ben, les mecs, ils me répondent, j'ai pas eu le temps, il y a eu tel client, tel machin, tel truc, je finis à minuit ou je sais pas quoi. Et du coup, je me dis, mais mec, ton taf, c'est de dire non à je sais pas quelle requête urgente, de prendre 4 heures dans un café, de te poser tout seul, de prendre 3 jours off, de faire ce que tu veux, mais d'être le seul et que toi qui peux le faire à savoir où est-ce qu'on va dans 12 mois. Parce que sinon, on va sortir l'application, on va se lever un matin et puis, et donc, voilà. Et en interne, je me bats constamment pour ça.
Tu te bats avec les personnes de quel niveau dans ta hiérarchie, entre guillemets ?
Tous ceux qui ont un sujet qu'ils own. Donc, ça va être un mec qui va gérer, je sais pas, le SAV, des trucs de SAV très, très compliqués chez moi parce qu'on est dans des dizaines de pays sur plein de langues, etc. Autant que la personne qui sort un produit, un software, autant que la personne qui va gérer les ventes, je sais pas, qui a des plans bien faits, etc. Et puis il va pas prendre le recul avec toujours cette réponse de j'ai pas le temps, de prendre le recul de ce qu'il fait derrière. Ça crée énormément de problèmes. de stagnation, mais tout simplement de manque de réflexion sur ce que tu fais. Si la personne qui gère sa boîte, en fait, c'est plein de petites boîtes, une boîte, hein, ne se pose pas, c'est-à-dire qu'il répond pas à ses mails, en fait, pendant 4 heures. Moi, je fais ça tout le temps. Hein. Le matin, à midi, tu n'as toujours pas reçu un mail de ma part. Quoi. En fait, je suis là comme un débile, dans un café, comme ça, en train de végéter, la tête en l'air, en train de me demander, mais alors attends, si je fais ça et ça, ça ne marchera pas, du coup. Voilà. Et si les gens ne prennent pas, indépendamment de la charge de travail qu'ils ont, le temps de faire ça, les boîtes, elles plantent. Et des mecs grandioses, on en parlait juste avant, des Bezos, des machins, etc. Des Apple, les mecs qui finissent par sortir Apple TV, si tu veux, ou Amazon Prime, ce genre de choses, tout finit par être connecté. T'as bien un mec là-dedans qui a pris le temps de se demander pourquoi il sortait Amazon Prime, si tu veux. Et si personne ne le fait, Amazon, ça fera encore de la livraison de livres. C'est ça mon point, quoi.
Et donc, ouais, c'est, entre guillemets, il y a une forme d'évidence côté CEO. Là, t'amènes un cran au-delà, c'est-à-dire t'amènes que pour toi, dans ta boîte en tout cas, toute personne qui own un projet, c'est important qu'elle mette dans son emploi du temps un time block. Tu conseillerais dans un premier temps que c'est vital à quel niveau? Est-ce que c'est d'abord les head of?
C'est quand tu ownes un sujet.
Bon. Il y a plein de gens qui ownent un
sujet. Pour ton show, là, il y a une personne qui peut-être qui own, le trafic, je sais pas moi, le marketing, une personne qui va owner le montage, j'en sais rien. Si cette personne-là, t'es arrivé au montage parfait, se demande pas c'est quoi le truc d'après à ta place, hein, qui fait qu'il y a un petit truc à aller creuser un peu plus loin, etc., etc., d'un nouveau type d'intervenant, je sais pas. Mais il reste que toi pour le faire. Or, toi, t'es probablement beaucoup moins bon sur le montage vidéo que ce monsieur ou cette dame. Et donc, il y a un problème. Moi, le SAV, je vois des chiffres, c'est connecté à différents outils, je vois à peu près nos interactions qu'on a avec les clients par minute, machin, etc. Après, je suis incapable d'innover là-dessus. Hein. Faudrait que je rentre dedans vraiment, que je comprenne qui fait quoi, ça me prendrait beaucoup trop de temps. Donc, si le mec qui gère ça lui-même ne se demande pas dans un an comment il fait pour améliorer tel truc, en probablement en faisant un truc que personne n'a encore fait ou en innovant un peu, le truc va stagner là.
Ok, et donc, du coup, super intéressant. Toi, pour résoudre ça, tu recrutes des gens qui ont déjà cet état d'esprit-là ou tu as mis en place des choses qui font qu'au niveau de ta culture, tu arrives à installer ce truc-là? Parce que c'est pas forcément un réflexe. Il y a un livre qui s'appelle 4DX, c'est les 4 Disciplines of Execution. Et il parle du tourbillon, toutes les choses que tu as à faire en permanence dans ta boîte qui font que tu peux vite te retrouver à faire que gérer du tourbillon et donc rien de stratégique. Comment tu entraînes, t'éduques dans ta boîte pour que du coup ça fasse partie de la culture? Parce qu'effectivement, je peux avoir un stock de montage, je peux avoir un stock de dev, je peux avoir un stock de plein de choses. Et ne faire que gérer ça et jamais avoir l'espace pour innover.
Honnêtement, je le fais pas bien. En recrutement, c'est difficile de trouver. En fait, c'est un peu des profils entrepreneurs. C'est un peu involontaire de réfléchir comme ça. Et donc, on essaye de pousser ce type de façon de penser. Mais en réalité, tu trouves un petit génie, qui gère la vente ou les opérations. Il est très fort. Et puis, tu le recrutes et c'est cool. Et donc après, c'est moi qui viens mettre des couches hyper fréquentes, surtout sur les personnes avec qui je travaille assez directement, évidemment, où je répète les mêmes choses 1000 fois, si tu veux. Mais je le gère pas hyper bien. Et je ne sais pas comment bien le gérer.
Est-ce que ça fait partie d'un élément de des culturels? Est-ce que tu as mis quelque chose qui fait partie des valeurs? Est-ce qu'il y a une valeur qui est autour de ça, par exemple, dans Miro?
On est en train de les refaire, là, les valeurs, puisque la boîte a beaucoup évolué pendant le Covid, et donc c'est une des 5 valeurs qu'on va mettre.
Ouais, ce qui va potentiellement aider à le renforcer.
Dans une des valeurs, il y avait en anglais « Think backwards from objectives », part de la fin et revient en arrière, et je répète ça, mais vraiment comme un débile tout le temps. Monde. Et donc, c'est un peu ça quand même. Je fais beaucoup d'investissements, etc. Dans la même veine, premier problème que je vois, c'est que tu prends, t'investis dans une boîte qui fait 100 000 euros par mois. Et t'as un business plan, ils font de la vente de micro. T'as un business plan et il y a écrit 220 000 euros par mois fin d'année, par exemple. Tu te dis, c'est cool, 220 000, c'est sympa, tu vois. Et donc là, je vais poser la question vraiment débile. Hein, je vais dire, pourquoi tu n'as pas 1 million d'euros à la fin d'année? Et là, le mec va réfléchir. En fait, c'est pas poser la question. Il va dire, pour faire 1 million d'euros, il me faudrait au moins 5 vendeurs de plus de micro et puis peu de marketing, etc. Je sais pas, il me faudrait au moins 500K, quoi. 500 000 euros, ok, ça se lève, 500 000 euros, ouais, et voilà.
Pourquoi pas, quoi.
En fait, il s'est pas dit ça. Il s'est dit, on est combien aujourd'hui? On est 9 dans la boîte, j'ai 3 sales, un marketeur, un peu d'opération, etc. Avec mes 3 sales, vu qu'ils vendent tant en moyenne, du coup, je tire un peu une ligne, etc. On a des clients déjà dans le pipe, ça marche bien, etc. Je pense que la fin d'année, je fais 220. Il ne se pose pas la question de se demander où est-ce qu'il aimerait être. Et du coup, il tire le fil. Et t'arrives à un moment donné où il se dit, putain, en fait, le mois prochain, il faut que j'ai 6 personnes de plus. Bon, j'ai pas le cash. Ok, il faut que j'aie de l'argent.
Ça me fait penser, Walt Disney, il avait structuré ce concept-là des plusieurs pièces. Il y a une pièce où, en gros, le mot comment il est interdit, c'est juste tout est possible, qu'est-ce que tu veux. Parce que justement, pour éviter le bruit de je vais réfléchir à ce que je veux en partant de ma réalité du présent et des comment qui, en fait, brouillent ta créativité. Et donc, il y avait une première salle, c'est déjà ici, ça serait quoi le film de dingue qu'on crée ensemble? Et on verra après ce que ça implique techniquement, est-ce qu'on a les technologies. Et après, il y avait une deuxième pièce dans laquelle, là maintenant, on va réfléchir du coup à toutes les contraintes, à tout ce qui ferait que ça pourrait pas être atteint, à ce qui manque. Et puis après, une troisième pièce, et à partir du mélange des deux, on va créer un plan d'action.
J'essaie de le faire autrement, mais en fait, c'est bien résumé. Tu devrais prendre des gens dans une pièce et en absence de contraintes, leur mettre dans la tête qu'il n'y a pas de contraintes et regarder ce qu'on sort. C'est pas faux. Surtout qu'en vrai, dans les faits, tu peux quasiment tout qui est faisable.
Et je crois que je lisais, je suis pas sûr que c'est lui, mais je crois que c'est Elon Musk qui justement, quand il y a un de ses ingénieurs ou quelqu'un qui lui dit c'est pas possible, je crois qu'il, alors, encore une fois, à vérifier ce que je vais dire, hein, mais je crois qu'il revient à chaque fois sur des éléments de physique sous-entendus. Si il y a pas une loi physique qui dit que c'est pas possible, dans ce cas-là, c'est forcément possible. Il y a peut-être une question de temps, une question de budget, une question d'innovation, une question de ressources. Et du coup, parfois même virer des gens qui lui disent c'est pas possible sans être capable de lui expliquer en quoi physiquement c'est mort, quoi.
C'est vraiment un truc de mindset, hein, le c'est pas possible. Mais c'est terrible, hein, c'est un vrai sujet. Hein. Il y a des gens, d'abord, ne pensent pas par eux-mêmes parce qu'ils ont déjà intégré le fait que c'est pas possible. Donc d'abord, l'innovation ne vient pas dans leur tête. D'où le fait que j'aimais les trois salles de créativité avec la première où c'est d'enlever cette contrainte. C'est pas mal du tout. Et puis après, t'arrives avec un sujet. Je regarde WeCrashed en ce moment sur Apple TV, sur le fondateur de WeWork. Là.
Tu conseilles ?
J'adore. C'est vraiment stylé. Et donc, il est entouré de gens qui disent on peut pas ouvrir 50 centres l'année prochaine, quoi. C'est pas possible. Alors que dans les faits, c'est possible. C'est vraiment une question de qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver. Mais en fait, c'est possible. C'est pas une question de. Il y en a qui ont monté des fusées, encore une fois. Et puis d'ailleurs, même sur la partie physique, encore ce matin, il y a des découvertes tous les jours qui fait qu'on pense qu'il y a certaines contraintes physiques qui, au final, ne le seront peut-être pas plus tard.
Ouais,
même
c'est
ça, c'est pas. Donc, dans les faits, oui, voler demain avec des ailes, bon, ok. Mais pourquoi pas. Mais pourquoi pas d'ailleurs, hein. Mais pourquoi pas.
Et toi, est-ce que tu considères que c'est ton rôle principal en tant que CEO de maintenir cette culture du pourquoi pas, on peut penser plus grand, on peut rêver plus grand?
Il y a vraiment différents profils de CEO et des CEO hyper techies, hyper, toi, qui codent eux-mêmes les trucs, qui sont hyper. Il y a vraiment différents profils. Chez moi, c'est clairement mon rôle numéro un.
Comment c'est structuré Miro? Ça, c'est une des questions au niveau. Il y a plein de types d'orgas et ça avance entre très pyramidal, il y a de plus en plus des mouvements autour de l'entreprise libérée, l'entreprise plate, les squads. Toi, aujourd'hui, vous êtes structuré comment? Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est les insights, les apprentissages, des trucs que tu as testés, qui n'ont pas marché, des choses que tu te dis, tiens, ça, en fait, ça marche trop bien. En tout cas, ça marche trop bien pour nous. C'est quoi un petit peu des apprentissages en termes d'organisation?
Je pense qu'on a des biais cognitifs sur ces sujets qui fait qu'on n'a jamais réfléchi à un sujet et puis déjà on part sur une route en mode on pense que c'est ça. Déjà moi je suis probablement avec des biais, les miens de base, qui fait que j'ai l'impression de tester, ça me donne l'impression que ça fonctionne et puis en fait je reste là-dedans. Donc je peux difficilement donner une règle générale. Je peux donner mon ressenti, on est assez hiérarchique dans la boîte. En fait on n'est pas du tout hiérarchique dans les relations humaines. Concrètement, okay. Donc ouais. C'est pas une boîte.
Oui, t'as pas des titres avec je fais une ouais, révérence quand il y a.
Il y a non, vraiment pas du tout. C'est même plutôt flat. Alors, tu peux être très très pote avec une personne qui partit en vacances, avec une personne qui est 12 rangs en dessous. Il n'y a pas de cette considération de rang, etc. Ça, il n'y a pas du tout. Enfin, en tout cas, j'espère, pas autour de moi. En revanche, il y a quand même une chaîne de commandes. Et ça, je pense que c'est très important. J'ai fait quelques essais de choses sans chaîne de commandes où tout le monde prend un peu les décisions collégialement. Plus une perte de temps assez forte, j'ai l'impression que. Il y a un peu statistiquement le principe que toutes les moyennes sont basses. Une moyenne, c'est bas. De manière générale, bon, statistiquement, une moyenne, c'est bas. Et du coup, j'ai fortement l'impression, et je l'ai testé 2-3 fois sans succès, que si tu prends 12 personnes pour se mettre d'accord sur un sujet et que personne ne tranche vraiment avec un biais et son avis à lui, une fois qu'il a entendu tous les avis, hein, t'arrives à une décision en moyenne, un peu entre deux, qui fait que tu prends un peu le chemin au milieu et que, bon, au final, c'est jamais grand, quoi. C'est juste un truc qui fonctionne un peu. J'ai cette impression, encore une fois, j'ai probablement mes biais, hein. Et j'ai jamais réussi à faire marcher, peut-être parce que j'avais des biais, je sais pas. Je trouve ça important qu'il y ait une personne qui tranche à un moment donné, qui a parfois tort, parfois raison, et puis voilà. Le seul sujet, c'est que quand t'as tort, faut vite arrêter. Et ça, il y a parfois des gens qui mettent un peu de temps là-dessus. Si demain tu lances une chaîne TikTok et que tu mets une fortune dedans, qu'en fait ça marche pas, bah faut être capable de dire ça marche pas, next time, ou alors je vais faire autre chose, etc. Plutôt que de dire non, mais je pense que c'est parce que j'ai pas fait ça, viens, on sort. Et là, pendant 3 ans, tu sors des trucs qui sont des add-ons. Pas très important de ton produit, qui font qu'en fait, si ça marche pas, ça marche pas. Quoi. Bon, voilà. Mais sur la prise de décision, on est hiérarchique chez nous. Encore une fois, au quotidien, ça n'en prend pas la forme.
Tu disais, tu prends 3-4 personnes. Comment t'arbitres? Est-ce que quand tu veux lancer une nouvelle idée, tu prends des gens qui sont déjà existants ou alors tu te dis non, je vais pas défocus des gens qui sont déjà sur leurs objectifs et je vais recruter 3-4 nouvelles personnes? Tu vois, c'est un peu dans l'histoire d'Apple, tu as à un moment donné Steve Jobs qui a presque sa micro-entreprise au sein d'Apple pour aller innover. Tu as un modèle là-dessus ou des apprentissages?
Quand c'est tout petit comme innovation, tu prends des mecs en interne que tu vas saouler parce qu'ils ont d'autres trucs à faire et t'essayes de. Tu vois, donc par exemple, tu vas sortir un plugin online d'un machin, tu dis putain, ça, c'est incroyable, faut vraiment que je l'essaye. Ça prend 3 semaines de taf, et là, tu vas gratter le cerveau des gens, tout le monde t'engueule parce que tout le monde te dit que ça sort de la roadmap, etc. Bref, tu vas gratter un peu le cerveau des gens, c'est des trucs. Et de quoi avoir ce fameux POC qui fait que tu peux tester, appeler 3 clients et voir si ça marche. Ça, tu gardes en interne. Quand tu as une conviction plus large, qu'en général, tu as dû poker un petit peu. Là, je monte une squad indépendante. Je suis très, très squad indépendante, moi. Plus les gens sont indépendants, moins il y a d'interdépendance, plus les gens vont vite et plus je suis content. Ça crée d'autres problèmes, sont tous les modèles ont leurs problèmes. Et du coup, par exemple, moi j'ai lancé le B2C il y a 18 mois, donc une offre, pas software, mais une offre de photographie tournée vers le consommateur final.
Et donc ils sont, entre guillemets, totalement indépendants, c'est-à-dire qu'il y a tous les métiers dans cette squad pour qu'ils puissent être autonomes.
Oui.
Donc ça va donner quoi, par exemple? Des devs, déjà, c'est sûr.
Eux, j'aurais demandé de le faire en no-code, parce que j'avais pas, parce que la partie tech, t'as vite des interdépendances, que tu le veuilles ou non. Donc, par exemple, si t'as une base de données, bon, en fait, elle doit être interconnectée à ta base de données de machin. Mais alors, eux, pour faire un truc, j'ai 300 000 lignes de code dans mon truc. C'est à la fois beaucoup, pas beaucoup, mais ça commence à faire 300 000 lignes de code. Ça fait beaucoup de fichiers, ça commence à être bien compliqué. Et donc, faire une incrustation dans une base de données qui change un peu, parce que du coup, eux, on a besoin d'un truc en plus qu'on n'a pas besoin côté client normaux. T'as pas mal de théories sur les X que tu prends avec le temps.
Les X, tu veux dire quoi?
De retard que tu prends. C'est 2X, 3X, 5X, 10X. C'est en fonction du temps que t'as passé à développer un produit. Développer une nouvelle feature te prend deux fois plus de temps qu'un mec qui commence tout seul, 2x, 4 fois plus de temps, 6 fois plus de temps, je crois qu'on est à 6x maintenant. On a regardé, c'est-à-dire qu'un truc très simple, les gars, venez, on monte un truc, machin, en fait, ça va me prendre 2 mois, ça rend fou, mais c'est comme ça. Alors que tu reprends d'autres personnes à côté, alors ça, c'est un autre set de problèmes, mais qui commence à partir de zéro, voilà, ça va leur prendre 2 semaines. En tout cas, pour répondre à ta question, je fais des squads, ce qui pose des problèmes, parce que par exemple, tu as une team marketing globale, ils ont envie, ils ont de l'ego, ils ont ce que tu veux, de traiter par exemple le B2C. Puis en fait, bah non, c'est une ou deux personnes au marketing dans la squad, dirigée par le CEO de la squad. Et puis c'est tout quoi. Et du coup, tu as deux, trois, t'as d'autres trucs à gérer. Ils font des trucs en doublon. Parfois, tu te rends compte que les trois squads ont fait la même chose 3 fois. parce que peut-être moi qui suis de la squad.
Tu le vis comment ça quand ça arrive?
C'est la vie. C'est la vie, je me dis j'étais nul, je vais me dire mec, mais en fait il y a trop de sujets que tu vois pas. Donc ils ont dû travailler sur, je sais pas moi, un formulaire de prise d'information, par exemple, je sais pas. Ce qui peut être c'est un peu plus compliqué que ça potentiellement, il y a plein de questions à faire, il faut que ce soit fluide, etc. Il y a plein de trucs. Évidemment, je suis pas à ce niveau-là de détails sur les sujets, et du coup j'apprends que ces deux mecs-là ont fait exactement la même chose pendant 3 mois, et je me dis vraiment, on est vraiment trop cons. Voilà, mais t'as forcément des petites frictions, mais néanmoins ça va beaucoup plus vite. Donc, je fonctionne purement en squad. Vraiment tout le temps. Si je peux tout squader, moi, je squad tout.
Et t'as une taille max de maxi de squad ou pas?
Non, j'ai une squad de 300 personnes, une squad de 3 personnes, une squad de... Non, ça dépend.
Il y a 3-4 ans, on a fait face à un problème de taille qui me frustrait énormément. On stagnait vers les 4 millions d'euros de chiffre d'affaires et je comprenais pas comment m'en sortir. Jusqu'à ma rencontre avec Marc Simoncini, où j'ai réalisé qu'un super entrepreneur, c'était pas quelqu'un qui était une machine en marketing, mais quelqu'un qui était une machine à recruter des talents. Et par hasard, en appelant la directrice du recrutement d'une des licornes françaises, elle m'a dit: j'ai entendu parler d'un outil dont l'investisseur principal de Notion, qui est un outil que j'adore, a investi dedans. Cet outil, il s'appelle HBI. Et quand je l'ai testé, il y a 4 choses que j'ai vraiment adoré avec eux. La première, c'est qu'ils sont vraiment exceptionnellement bons pour construire du reporting et des dashboards qui sont vraiment clairs et arriver à extraire la data que j'avais besoin. La deuxième chose, c'est que souvent les outils de recrutement permettent de juste faire l'ATS et de gérer la relation d'un candidat qui vient de postuler, mais qu'il fallait utiliser d'autres outils de recrutement qui peuvent coûter jusqu'à 3 000 $ par employé pour pouvoir faire ce qu'on appelle du sourcing. Et là, ils étaient en train de construire une extension sourcing inclue dans le package global. La troisième chose qui était importante pour moi, c'est que je sais que les équipes ont du mal à utiliser un outil qui n'est pas facile et intuitif à utiliser, et ils ont mis un énorme effort dans l'UX et l'UI, c'est intuitif. Et la quatrième chose qui était importante pour moi, c'est d'avoir une API publique ouverte qui permette d'automatiser un maximum de choses. On s'est obsédé là-dessus, ce qui nous a permis de pouvoir absorber, alors qu'on avait une équipe de recrutement que de 2 personnes, on a reçu plus de 50 000 candidatures l'année dernière. T'imagines, quand t'es une boîte comme nous de 60, c'est hyper dur à gérer. Mais on a pu automatiser des filtres automatiques, des relances automatiques, on peut avoir des systèmes d'alerte pour savoir si on n'a pas géré un candidat, pour préformater la manière de recruter les personnes en fonction de chaque poste. Bref, c'est dingue. HBI, on l'utilise maintenant depuis plus de 6 mois et franchement, c'est en train de nous permettre de créer de la talent density. Et donc, je t'invite à regarder dans la description, regardez HBI, c'est vraiment un outil incroyable. Aujourd'hui, Paradox, c'est quasiment 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et je pense qu'on a mis en place le système recrutement qui va nous permettre d'aller jusqu'aux 100 millions de chiffre d'affaires. Donc HBI, gros coup de cœur.
Tu disais trouver quelqu'un qui a la tête bien faite pour justement faire ce truc en no-code ou quoi. Comment, c'est quoi tes apprentissages en termes de recrutement pour maximiser les chances de 1, te retrouver face à cette personne en entretien d'embauche et 2, l'identifier?
un truc que je faisais vraiment beaucoup il y a 5-6 ans, pourtant j'avais déjà recruté beaucoup de gens, c'était que je recrutais les gens qui en fait avaient les mêmes centres d'intérêt. Donc t'arrives devant toi, t'as une personne qui...
C'est quoi les tiens de centre d'intérêt?
Je fais des sports ou simplement il est sympa, on va parler de trucs, je sais pas, il a fait mon école, j'en sais rien, c'est des trucs où tu peux relate. Et donc il y a un mec qui est un peu fluide, qui se pose comme ça et qui est sympa, et puis tu sors du rendez-vous en fait, putain il est trop cool ce mec ou cette fille, mais en fait tu sais pas du tout s'il est fort et bon. Et du coup tu recrutes des gens qui sont juste très sympas, donc ça m'est arrivé plusieurs fois ça. Maintenant j'évite ces biais, l'accent je le mets au niveau des background checks. Okay. Donc les appels que tu fais auprès de leurs anciens employeurs, j'en fais entre 3 et 6 parfois quand je pousse.
Tu le fais toi?
Ouais, je l'ai fait moi. Okay. Je pousse le bouchon parfois à 6 parce que wow. C'est là que tu as les informations. C'est systématique.
Comment tu t'assures de passer justement par cette friction que peut avoir la personne de dire du bien?
Bah, c'est là où il faut être bon au téléphone. Du coup, en général, tu as deux trucs. Soit la personne t'envoie des personnes qu'elle connaît. Donc, il y a un petit biais hein, là aussi. Voilà. Elle pouvait t'envoyer 10 collègues, elle t'envoyait ce collègue-là, c'est qu'il y a une raison. Soit je passe aussi par des contacts que je peux avoir et je fais, bah, tiens, je vois une personne qui était chez toi il y a 3 ans, tu peux me faire un feedback et du coup, je prends un feedback non sollicité. Maintenant, même quand c'est sollicité, bah, en insistant bien, 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 tu...
T'as des questions que t'adores poser de manière systématique au téléphone à des...
Je suis assez direct, je vais dire très, très franc. Au bout de 25 minutes où en général, on entend que la personne est incroyable, je vais faire une phrase un peu particulière, sortie de nulle part. Et qui...
Par exemple.
Je vais dire, mais concrètement, est-ce que Damien, est-ce qu'il y a un truc où il est vraiment, vraiment nul? Je vais vraiment le faire comme ça. Mais vraiment, il est nul. Donc, je parle comme ça. Donc, c'est un peu bizarre. Je peux parler à des gens qui ont 50-50. Hein. Et donc là, ça surprend. Et donc là, il me dit, bah, il est trop perfectionniste. Bon, non, mais est-ce que vraiment, il y a bien un truc? On a tous des trucs. Moi, je peux te dire des trucs où je suis nul. Hein. Est-ce qu'il y a un truc vraiment.
C'est pas possible, quoi.
Et là, tu creuses. Et quand t'en fais 5, et que t'as toujours la même chose qui ressort, t'as ta réponse. Et quand la personne, tu leur insistes 3 fois, t'es obligé de donner une réponse. Au bout d'un moment, c'est lourd. Donc tu fais, oui, alors moi, je trouve qu'il est vraiment top. Après, c'est vrai, par exemple, qu'il n'est pas très politique dans la boîte. Donc, etc. Et donc, quand tu vois le même truc, ou alors, c'est vrai qu'il n'aime pas trop, il n'aime pas le conflit. Donc là, si tu cherches un sales manager, par exemple, et que tu as besoin qu'il y ait un peu de hargne sur le... Tu as besoin d'avoir une personne qui accepte le conflit pour pouvoir pousser ses équipes. C'est un des critères, une des situations qui peuvent se passer. Et donc là, tu dis, ah, ça m'embête un peu. En répétant ce genre de petites questions, 5 fois de suite à 5 personnes différentes, t'as ta réponse.
Et pour te retrouver face à cette personne brillante, comment tu sais quoi, tes offres d'emploi sur ton site, t'as des job boards, tu passes par des cabinets de recrutement. Avec le temps, là, si tu, par exemple, quelqu'un qui nous écoute veut trouver ce super no-code junior, mais qui a faim, qui est bien câblé, qui va lui faire son POC no-code rapidement, tu conseilles quoi en fait?
Eh ben, il va galérer. D'abord, je vais compléter la réponse d'avant juste, au passage. C'est que je pose la même question au candidat. Je lui demande, c'est vraiment important. Je lui dis que je vais appeler des gens qu'il connaît.
Ouais.
Et je lui demande, selon lui, c'est quoi le truc vraiment la mauvaise qualité qui va m'être cité à chaque fois. Et donc, ça, c'est pareil en général quand tu croises des. C'est une très bonne question à poser. C'est compliqué le recrutement. Il y a 5 ans, c'était cool. Donc, il y avait. Tu postais des offres d'emploi sur des sites connus comme Welcome to the Jungle. Un carton sur le sujet, ou d'autres sites de recrutement du genre, où tu te mets en vitrine avec ta boîte, tu t'expliques ce que tu fais, etc. Et les gens postulent. Ou alors tu vas chasser, tu ouvres ton LinkedIn. Et
tu le faisais toi-même, t'as fait toi-même?
Ouais, je le fais encore maintenant.
Ok.
Ouais. T'envoies ton LinkedIn, etc. Au bout d'un moment, si t'as un peu de trésorerie, t'embauches une personne qui le fait, appelle la Talent Team, et qui donc va le faire, il va chercher des gens, etc. Maintenant, aujourd'hui, notamment dans tout ce qui est dev, etc., c'est la guerre. Hein. Si tu regardes de mémoire, maintenant plus, qu'il y a Doctolib qui vient de relever, mais il y a eu à peu près 5 milliards d'euros de levée en quelques mois. Là. Et si tu te dis que la moitié de ce budget est fait pour recruter des gens, ça fait 2,5 milliards. Tu divises ça par chargé avec charge sociale, charge patronale, tout chargé, les impôts, tout. On va dire qu'une personne coûte 100 000 euros, c'est à peu près la moitié en charge, entre les devs, etc. Tu divises 2,5 milliards par 100 000. Ça doit faire 25 000 personnes, je pense, plus ou moins. Et donc, en splitté entre développeurs, vendeurs, marketeurs, opérations, ils n'existent pas, ces gens, à Paris. Hein. Du coup, forcément, ça devient complexe. Donc, quand tu crées une nouvelle boîte, là, aujourd'hui, c'est plus compliqué qu'avant. Donc, quand tu cherches ton no-code guy ou girl, il faut être très convaincant sur le petit message que tu envoies.
Sur LinkedIn.
Sur LinkedIn, ouais. Donc, t'as quelques sites qui font la même chose que LinkedIn, ou sur Malte, tout ce genre de choses, mais ouais.
Et donc, c'est toi qui écris en ton nom, avec ton profil.
Sur les postes que je vais recruter, moi, en direct, il y a une personne qui va m'aider, et puis j'ai des cabinets aussi, hein. Ça va dépendre des sujets. Notamment beaucoup plus de cabinets maintenant qu'avant, parce que c'est tellement difficile, il y a tellement de personnes qui cherchent les mêmes postes, c'est tellement dur que bah, du coup, tu passes de plus en plus par des cabinets. Donc, ils ne connaissent pas la crise, les cabinets de recrutement. Mais encore maintenant, s'ils cherchent un directeur financier, ce qui n'est pas le cas, mais j'en ai cherché, notamment parce que je vais avoir un taux de réponse un peu plus élevé.
Oui, parce que c'est toi.
Parce qu'il y a écrit, c'est très bête, mais il y a écrit signature, machin, CEO, truc. Et du coup, les gens me répondent probablement davantage.
Et tu fais un call de combien de temps, le premier?
Une demi-heure.
Une demi-heure.
Alors, ouais, je réponds à moitié à cette question, mais la personne ne correspond pas en réalité.
J'arrive à écorcher.
J'essaye d'arrêter ça très vite.
T'as quoi comme apprentissage, astuce, fluidifiant, lubrifiant
pour sortir d'une discussion comme ça?
Ouais.
J'annonce que j'ai pas beaucoup de temps.
Dès le début?
Ouais, je dis, je suis vraiment désolé, j'ai... ce qui est d'ailleurs accessoirement souvent très vrai, mais je vais dire, j'ai vraiment 5 minutes, on se fait juste un petit call pour dire bonjour, etc. Et puis après,
tu peux faire durer.
Et si finalement je vois un vrai fit tout de suite, ça, en fait, ça sent assez rapidement quand même, au moins humain, ce qui est aussi important. Derrière, je fais attendre, laisse-moi une seconde, je vais décaler un truc. En plus, c'est souvent vraiment booké quelque chose derrière. Et je prolonge le call. Parfois, j'ai fait des trucs sur 2 heures complètement débiles, mais je le déteste d'ailleurs en interne, je me bats parfois un peu aussi là-dessus.
Les entretiens trop longs.
Ben non, mais les gens, ils sortent de 3 quarts d'heure de meeting et il arrive, il fait ah non, franchement, pas du tout. J'ai passé 3 quarts d'heure en meeting avec lui, tu vois, et parce qu'il va te répondre, j'ai pas osé. C'est plus simple maintenant que tout se passe en visio ou que les premières interventions.
Oui, quand t'as fait venir quelqu'un, une heure de trajet, c'est difficile après 5 minutes de lui dire désolé.
Faut bien se tenir quand même, donc c'est pas évident. Si la personne a vraiment fait une heure, enfin, qu'importe d'ailleurs, 5 minutes ou 1 heure, s'est déplacée chez toi, tu peux pas. Voilà. Quand c'est en visio, c'est plus pratique quand même. Ça fait gagner beaucoup de temps la visio parce que tu peux enchaîner les.
Et dans ton process de recrutement, t'as combien d'étapes toi?
Il y a 3-4 personnes à voir chez moi, parfois 5, on fait un test à chaque fois sur 2-3 sujets, il y a des métiers qui sont plus faciles à tester que d'autres. Derrière, on fait les ref checks, on appelle les gens, c'est tout. C'est pas un truc, donc je sais que tu vas chez Amazon ou parfois quelques startups parisiennes qui ont des articles là-dessus, c'est hyper procédural. Je suis pas certain qu'on gagne tant que ça en efficacité, mais moi je vais rencontrer la personne par exemple si ça me concerne, plus mon DG, ma directrice de je sais pas quoi et mon directeur de je sais pas quoi. On est 4, on a tous un bon fit. Ok, en faisant un petit test sur un sujet, passer un vendeur. Comment tu testes un vendeur, c'est pas évident. Mais on fait un test sur un truc. Le truc est propre, c'est carré, c'est bien organisé.
Donc t'as un business case de manière systématique dans tes process?
J'apprends de temps en temps que non, mais dans l'idée,
dans
oui.
L'idée, oui. Dans la philosophie.
Dans la philosophie, il faut un business case qui peut être très simple. Ça permet notamment de voir, ne serait-ce que tu vois un marketeur, tu te rends compte que c'est idiot. D'ailleurs, je déteste dire ça parce que je trouve ça dommage, mais je m'adapte à une situation qui est réelle. S'il y a des fautes d'orthographe, ça va poser problème. Si le mec qui gère ton contenu, il fait des fautes d'orthographe. Donc, tu checks s'il est carré, s'il est bien organisé, si, je sais pas, mettons qu'il doit faire un petit PowerPoint qui présente un sujet. S'il n'y a pas les trucs, je sais pas, les titres qui bougent dans tous les sens d'un slide à l'autre, un truc un peu carré. Donc, déjà, tu testes s'il est carré. Après, il le présente, tu vois, si c'est un, mettons que ce soit de la vente ou du marketing, si c'est un communicant, etc. Donc, c'est important.
Tu as des apprentissages liés à des erreurs par rapport au choix du business case? Parce que, pourquoi je te dis ça, c'est que la friction qu'on pourrait avoir, c'est de dire, j'ai peur de prendre un business case qui est trop bateau en fait, et qui va pas me permettre de faire ressortir le génie de la personne, de rendre flagrant sur la bonne personne.
Bon, on se bat toujours un peu là-dessus, il y a vraiment des sujets où c'est simple, tout ce qui est data, tech, etc. T'as des trucs tout faits, d'ailleurs tu peux les acheter, etc. Ça marche bien. Dès que t'es sûr des qualités dont t'as besoin, mais qui sont...
Par exemple, un head of marketing où on cherche ça, voilà. Comment tu t'y prendras toi?
Il a besoin de faire quoi le head of marketing? Il est plutôt data, il faut qu'il fasse des campagnes et qu'il maîtrise parfaitement les outils, ou il doit avoir une vision de communication avec du branding et que
c'est... Branding, créer des campagnes, d'emailing, créer des campagnes vidéo, réfléchir à des funnels.
Donc il y a quand même une bonne partie data quoi. Il doit être capable de se rendre compte qu'un visuel est joli ou pas joli pour pas faire des trucs horribles, en tout cas que la personne en dessous de cette personne.
Ouais, l'idée, l'équipe de prod, l'idée, vidéo.
Alors, en plus il gère la prod, ok. Bref, donc faut vraiment qu'il ait un aspect très dur comme profil, hein, de avoir les deux en même temps.
Non, pas l'idée, la tech, mais en tout cas être capable de communiquer avec la partie prod d'un teaser.
De ce qu'on veut, pourquoi, être capable parfois de produire un peu le teaser dans le sens où je coupe 2-3 trucs qui me paraissent... C'est très très dur d'avoir ce profil là qui est capable à côté de mettre son nez dans des chiffres. Parce que diriger des campagnes sur TikTok, YouTube, etc., c'est pas du tout un truc qui s'invente, quoi. C'est vraiment un truc de matheux. C'est data pure. Sur la partie content, ce genre de choses, je leur demande, ça dépend des sujets, mais je vais leur demander de m'envoyer des maquettes d'un truc. Donc, par exemple, drafte-moi 3-4 maquettes d'un sujet. Mettons qu'on monte un show demain matin. Le show, c'est moi, voilà, je veux adapter ça à la Chine, n'importe quoi. Voilà un peu la Chine, tu vois, à peu près leur code couleur, etc. Fais-moi quelques maquettes, s'il te plaît, de quoi ça ressemblerait. Ils passent 4 heures. Et tu vois déjà si la partie esthétique, si le quotient émotionnel de tout ce qui a du goût, etc., fonctionne. S'il y a un truc qui est dégueulasse, next. Et c'est pas, il fait pas exprès, c'est juste ton cerveau fonctionne, il le verra jamais, quoi. Et les gens qui font des trucs moches, ils se rendent pas compte que c'est moche.
Ouais, ils pourront pas apprendre.
Les archives font des trucs horribles, ils savent pas que c'est horrible. Bon, les goûts, les couleurs, tout ça.
Toi, c'est un aspect d'ailleurs que t'aimes, cet aspect, parce que t'es dans la photo, c'est pour ça que je te pose la question. L'aspect beauté, design.
Je suis un malade mental de ça, moi. C'est compliqué de travailler avec moi sur ces sujets. Je suis vraiment très, très chiant. Mais d'ailleurs, j'ai fait beaucoup de vidéos, j'ai fait des documentaires, des vidéos, etc. J'ai un magazine photo, moi, qui fait des documentaires de 30 minutes à 1 heure. Très, très, très. Enfin, c'est des grosses réales, quoi. plus des masterclass avec des stars de la photo dans le monde qui durent 10 à 30 minutes.
On sent que ça t'anime, là, ton énergie elle est montée d'un coup.
Ah mais c'est-à-dire que c'est étonnant d'ailleurs parce que je vais avoir des réals réputés, etc., qui m'ont livré un teaser d'une minute 20, si tu veux, par exemple, sur un docu à monter. Et moi, le teaser, si j'aime pas la musique, on publiera pas le teaser, quoi. Or, c'est pas mon métier, donc c'est pas trop de placer, mais donc, ouais, je suis assez dur là-dessus. Et c'est pareil chez moi, j'ai un coloc, on se marre, mais je veux dire, si je fais une porte, je débarque et je vois que la poignée est moche, ça va vraiment m'obséder, j'ai vraiment un problème psychiatrique, quoi. J'ai besoin que la poignée soit jolie. Donc maintenant, j'ai un problème là-dessus. Donc, quand t'es en front avec moi sur des sujets qui touchent à un produit, etc., je suis un peu chiant quand même.
On m'a donné une matrice il y a deux jours que j'ai trouvé vraiment, vraiment trop cool. Donc, la question que je posais à l'entrepreneur, c'était comment gérer entre micromanagement, entre là où je lâche et là où c'est stratégique de lâcher. Il m'a donné une matrice que tu connais peut-être, réversible, irréversible, en X, et opérationnel, stratégique. Et en gros, David, la seule chose sur laquelle tu as à te concentrer, c'est stratégique, irréversible. Sous-entendu, si c'est réversible, c'est pas forcément stratégique que tu t'y mettes. Et tout ce qui a tendance à être design, choix de musique, j'ai du mal à me dire, par rapport à cette matrice, de me dire, en fait, non, mais David, là, c'est pas irréversible, tu pourrais lâcher. Mais dès que c'est...
Mais pourquoi tu as envie de lâcher? Enfin, je connais la réponse à mon avis, mais...
J'ai envie de lâcher pour développer la boîte, parce que je peux pas être partout.
C'est juste pour ça, ok.
Tout ce qui va être autour de l'univers visuel, le montage ou quoi, j'aime ça.
J'ai ces sujets assez fréquemment, parce qu'en plus, parfois, je fais des petites crises de micromanagement en interne. C'est-à-dire que je suis très light pendant 3 mois, et tout d'un coup, je vois un truc qui me déplaît, puis je commence à tirer le fil, et puis bon. Et j'emmerde tout le monde, du coup. Donc, j'en parle beaucoup avec mon DG, qui est Gaëtan, qui est beaucoup plus dans le... on a recruté des gens qui sont bons, si on les recrute, soit on les vient, soit ils sont là, c'est qu'ils sont bons, donc on les laisse faire. Dans les faits, moi, j'ai quand même l'impression, et je le fais pas, je pensais que t'allais me répondre ça, mais j'en fais pas parce que la réalité, c'est quand tu micromanages, la conséquence, c'est que les gens peuvent partir. Personne n'aime être micromanagé, moi non plus, personne. Donc, je comprends très bien le fait de pas aimer avoir quelqu'un au-dessus qui vient saouler sur tous les détails, avec son avis à lui, qui pourrait être mauvais d'ailleurs au passage. Donc la petite conséquence, ça peut être ça. Et néanmoins, si tu prends toutes les boîtes qu'on cartonnait, pour en citer 150, hein, tous les CEO sont tous des malades mentales du micromanagement. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de cas de figure, hein, vraiment. Parfois, tu sors un livre qui dit l'inverse, etc. En fait, quand tu creuses un peu, les mecs, ils sont tous dans les... Surtout sur les sujets qui impactent l'image de marque de la boîte. Et moi, j'ai beaucoup de mal. Donc, il y a des trucs sur lesquels je laisse faire. Et je recreuse juste tous les quelques mois. Et puis, je viens corriger 2-3 trucs que je pense devoir corriger. Et parfois, je me trompe. Mais surtout, tout ce qui impacte l'image de la boîte. Donc, toi, si on sort un truc visuel, un logo, un machin, etc., ça sort pas sans moi. Genre, je check tout. Vraiment. Ce qui peut m'entasser un peu ma boîte mail. Mais si on sort un écran d'une app. Mais d'ailleurs, si on la sort en m'oubliant, ça, c'est un des rares sujets où je suis vraiment pas content. Parce que souvent d'ailleurs je trouve des trucs qui me dérangent, donc voilà, une couleur, c'est pas le bon rouge en fait, il est dégueulasse ce rouge.
Alors justement c'est parfait, ouais. Comment t'arbitres entre, mais en fait c'est juste moi, c'est-à-dire que l'écran entre guillemets il est beau, c'est juste moi qui m'obsède sur ce rouge, parce que moi je vais faire ça, je vais trouver que
je vois très bien, mais il est pas assez bleu, il est pas beau, c'est pas bon bleu.
Il est trop coloré, trop quelque chose, comment tu fais pour, j'imagine qu'il y a des fois où en fait il s'agit de lâcher pour toi.
Non, non mais très direct, ce sujet je lâche pas. Donc, mais c'est pas. Mais du coup, les gens qui travaillent là-dessus, ils sont habitués. Au demeurant, encore une fois, il y a pas trop de hiérarchie dans les faits. Donc ça, par exemple, je dois le valider. Je vais me poser à leur bureau. On va plutôt se marrer qu'autre chose. On peut se marrer. Je fais avec ton bleu, il est vraiment dégueu. Hein. Tu te rends compte qu'il est dégueu. Voilà. Et je vais montrer pourquoi. Je vais ouvrir 3 applis. Je fais toi le bleu. C'est ça en ce moment. C'est pas ce bleu-là. Ce bleu-là, c'était il y a 8 ans. Mais je vais le faire un peu avec sympathie. Il va me répondre qu'il est pas content. Et c'est pas. Il y a pas de. Tu vois. Donc il y a une façon de collaborer qui.
Mais tu te dis pas que
j'espère être agréable. Que j'espère. J'en sais rien. Parfois, probablement pas. Dans la majorité des cas, que j'espère être agréable. Mais parfois, j'ai tort. Mais c'est pas grave. Mais c'est comme ça. En fait, tu peux pas.
T'arriveras pas à lâcher, en fait.
Non. Je pense avoir souvent raison sur ces sujets. Surtout. Pour te montrer le teaser après, si tu veux, du dernier truc qu'on sort. Je pense que t'apprécieras la musique. Je te montre le truc d'avant. Je pense que tu me diras que. Je suis certain que tu me diras que t'aimes pas la musique. Voilà. et donc, je pense souvent pouvoir apporter. Parce que mon cerveau est orienté vers ce truc-là, que depuis que j'ai 4 ans.
Ouais, t'aimes ce sujet.
Je rentre dans un restaurant et je me demande pourquoi il n'a pas accroché un truc là. C'est une obsession, quoi. Mais bon, tant que c'est fait, voilà, sympathiquement, c'est pas très grave. Par contre, je pense pas que je lâcherai. Je n'arriverai pas psychologiquement à lâcher, quoi. tu vois, j'ai lâché sur un truc, mon logo Miro. J'ai demandé un truc, j'ai pas vu que c'était, ça n'avait pas été fait. On avait release tous les machins, ça, c'était trop tard. Mais mon logo, le R, la branche du R est pas assez longue. Du coup, ça fait un truc un peu, c'est pas très symétrique. Et ça, tous les jours de ma vie, quand je rentre dans mon bureau et qu'il y a écrit Miro, ça me dérange. Ouais, j'ai jamais changé.
Ouais, ça, tu pourras le changer un jour.
Ouais.
Justement, par rapport à ça, ton CTO,
ouais.
Est-ce qu'il a une appétence design?
Non.
Comment tu gères ça, du coup?
Ah, il est très, très, très fort, s'il m'écoute, en relations humaines, en organisation d'équipe, en empowerment des gens en dessous de lui.
Okay.
Il est arrivé il y a un an maintenant, ça a transformé la boîte, c'est vraiment incroyable à regarder. Je ne sais pas si j'ai déjà dit, donc s'il écoute, au moins il aura le feedback, parce qu'il n'est pas directement sous moi. Et donc il va structurer les équipes, comprendre qui doit travailler sur quoi, avec quel timeline, les protéger. Les développeurs, t'as quand même tout, la partie tech, t'as quand même tout le monde qui vient tout le temps demander des trucs.
Ouais, c'est clair.
Organiser, etc., mettre des roadmaps, etc. Ça. Et il le fait très très bien, la partie design, c'est pas vraiment lui, c'est plutôt la partie qu'on appelle le product, qui eux doivent driver ton produit, donc ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être un software, ça peut être un micro, c'est un produit. Où est-ce qu'il va, pourquoi, comment, du coup c'est quoi les roadmaps, et donc ils vont guider les développeurs et la tech en disant il faut qu'on aille là. Après la tech qui prend le besoin, la personne qui gère ça, prend le besoin et il essaie de comprendre dans quel délai, comment on repriorise les sujets, qui fait quoi, comment on structure, ok il y a les apprentis, où est-ce qu'on les met là-dessus, etc. pour que tout le monde soit heureux, créatif, etc. Donc son taf à lui c'est pas du tout d'être bon en design, d'ailleurs je dis non je sais pas, peut-être que si mais...
Non mais tu considères ok que son focus c'est la tech.
Et il n'a pas du tout envie de travailler là-dessus d'ailleurs.
Ok. Voilà. Une petite question et prends ton temps de la raconter. Est-ce que tu peux partager une victoire qui a été difficile pour toi à obtenir, où il y a eu tout un tas de péripéties qui ont été des galères, des challenges, des trucs difficiles? Pourquoi pas, avec du recul, c'est drôle une partie de ça. Et si tu peux prendre le temps de me raconter du début jusqu'à la victoire, par quoi t'es passé?
En 2016, je commence la boîte. Fin 2016, je veux lever 7 millions d'euros. En 2016, c'était un peu n'importe quoi. On a un peu, chez Miro, anticipé tout le monde aux 2-3 ans sur les montants d'élevés. Donc, on a fait 7 millions. Enfin, non, du coup, je ne l'ai pas fait d'ailleurs, mais dans l'idée, il y a eu un seed. Après, il y a eu 15 millions, 45 et 200. C'était un peu en avance de tout le monde. Donc, c'était un peu n'importe quoi. Notamment parce que je partageais une vision qui était probablement agréable à entendre et à voir en exécution auprès des fonds. Et donc, le premier truc, c'est qu'on prend la boîte début 2016 et genre 9 mois plus tard, vraiment pas grand-chose, 9 mois, je lève avec deux gros fonds. Très gros fonds, 7 millions d'euros. C'est vraiment lunaire à cette époque. Hein. Je me dis vraiment what the fuck. Et finalement, ils ne rentrent pas. Pour un sujet comptable qui n'a aucun sens, d'ailleurs, une partie d'entre eux sont revenus plus tard. J'ai eu beaucoup d'imprudence dans ma façon de gérer la boîte. Donc, j'étais sûr de moi, parce qu'il y a des défauts, ça a des conséquences positives et négatives. Et donc, je ne suis pas juste sûr de moi. Du coup, je pars en septembre 2016. Je me dis, on va lever 7 millions. J'ai encore jamais levé de fonds de ma vie, je me crois dans l'arrache. Je connais personne, aucune intro de rien. Bon, très bien. Et à ce moment-là, du coup, j'ai quelque chose comme, je sais pas, 400 000 euros de trésorerie sur mon compte et je monte le burn rate. Donc le burn rate, c'est ta perte mensuelle. Donc combien je perds, ça sort de mon compte en banque. À tel point que j'ai monté mes dépenses de sorte à ce que fin janvier ou mi-janvier, je suis à un négatif sur mon compte. Bon, donc, je me dis, on va monter les dépenses pour monter le revenu, avoir une croissance forte et clôturer un tour de levée de fonds propre fin d'année 2016. Bon, du coup, je vois pas mal de fonds. Ça plaît aux gens, je le pitch, j'adhère à la vision, etc., etc. Et puis, je prends une term sheet, donc un contrat temporaire, enfin une lettre d'intention, une term sheet de 7 millions d'euros de fonds vraiment incroyables à cette époque, encore maintenant d'ailleurs, mais que surtout quand tu rentres dans le bain, je sais pas, genre 28 ans, je sais pas, je rentre dans le bain du truc, c'était un peu lunaire. Donc, forcément, t'as un peu les étoiles dans les yeux, tu fais, allez, go, on y va,
T'étais où là, sur la carte?
Quand la term sheet tombe, j'ai monté du fonds d'investissement. On m'invite dans des trucs un peu sympathiques. Parce que le fonds d'investissement, son taf, c'est aussi de trouver des gens, hein, donc, sur lesquels investir. Donc, t'es un peu dragué. Drague dans les deux sens. Donc, il te drague. Donc, j'ai une personne de 55 ans qui me drague, qui m'invite à un petit dîner sympathique, coûte une fortune. Moi, je gagne pas un rond, machin truc. On présente le papier. Voilà, Thomas, j'ai envie d'y aller. Donc, là, t'es là, yes, j'ai envie d'y aller, machin. Voilà les conditions. Là, dans les conditions que j'aime pas, je fais, non, c'est mort. On négocie un peu. Ça me va. Je fais, cool, on y va. On draft une term sheet. Et puis, le lendemain, je reçois le document, je le signe. C'est signé, quoi.
Et quand c'est signé, tu te sens comment, ça, là?
Bah, tu te sens heureux. Tu dis, d'abord, je vais pouvoir me payer, parce que jusqu'à présent, je ne me payais pas pendant des années. Je ne peux pas payer pendant 5 ans, genre. C'est un peu chiant. Travailler aux planches, boîte de nuit, à Paris. Pendant un an, le reste du temps, je galérais. Donc je ne me payais pas. Donc, déjà, c'est-à-dire que tu vas pouvoir te payer et te verser un salaire. Et deuxièmement, tu as du self-satisfying truc, quoi. Enfin, tu te dis, c'est chouette. Bon. Ce qui est assez humain.
T'es le genre à célébrer à ce moment-là ou t'attends encore?
Non, je n'aime pas du tout. Moi, je suis superstitieux autant que tu veux. Donc, enfin, je ne suis pas un superstitieux, je passe les échelles, mais je veux dire, non, je ne sais pas quand c'est, tant que ce n'est pas fait. Pas du tout. Mais néanmoins, bon, il y a très, très, très peu de term sheet qui ne mènent pas au contrat final. C'est vraiment très, très rare. Du coup, tu te dis, il y a une term sheet, c'est bon. Et puis, en fait, 2 mois passent, on arrive début janvier, et puis là, je sens que ça se refroidit, notamment parce qu'il y a un audit, ce qui est normal, entre la term sheet et le contrat final. Ils mettent un petit audit. Il y a Ernst & Young, KPMG, etc., qui passent faire un audit. Que là, je déclare mon revenu en fonction de ce qui est facturé et pas ce qui est livré. Je te passe les détails, on s'en fout, mais déclarer un revenu, ça donne pas les mêmes chiffres. Et t'as un des deux fonds qui prend panique et qui, finalement, ne signe pas, quoi. Donc, j'ai plus de fonds d'investissement, j'ai plus d'argent. Sachant que moi, je suis out of cash complet. Et donc là, c'est début janvier 2017. C'est vraiment sympathique. Du coup, ce que je fais à ce moment-là, je triche un peu. Alors encore une fois, avec une confiance en moi qui est débile. Je pense que je ne le referai pas, je ne sais pas. Je me dis, de toute façon, c'est mort, je leur ai de l'argent. Donc j'ai plus de cash. Hein. Il drop la term sheet. Et du coup, je demande à la BNP, avec une personne qui s'appelle Alexandra, qui est extrêmement forte et qui me soutenait depuis déjà un an et quand je continue à travailler avec elle. Je lui dis, bon, les fonds mettent plus de temps que prévu à donner de l'argent. J'ai besoin d'une ligne de trésorerie de 500 000 balles. Et du coup, elle me dit, OK, mais je peux te le faire qu'en caution perso. Bon, bah, du coup, je prends 500 000 balles en caution perso et j'ai 45 jours pour les rembourser. Donc, à l'époque, je ne gagne pas un euro. Hein, 500 000 euros.
Ça te fait quoi, ce genre de moment ça? Tu ressens quoi physiquement?
Mais pas grand-chose. Hein. J'ai plutôt l'impression de... C'est un peu cliché, mais de remonter les manches et de partir à la guerre. Moi, ça me booste. Je me lève un peu le matin, un peu... J'étais vénère de ce qui venait de se passer, parce que c'était, en vrai, c'était un peu n'importe quoi. Surtout qu'il n'y a pas de raison fondamentale. D'ailleurs,
les fonds sont
revenus plus tard. Ouais, ça, j'étais vraiment vénère. On joue quand même avec la vie des gens, hein, mais j'ai aussi des salariés, ça va. J'étais vraiment vénère, je trouvais ça injuste. Et en même temps, j'ai mon petit ego qui me dit, bon, très bien, je vais leur montrer. Il y a un peu de trucs comme ça. Et donc, je me suis levé plus tôt que jamais, et je me suis couché plus tard que jamais pour aller prendre cet argent. J'avais un co-founder à l'époque qui portait aussi la caution perso sur lui, by the way. Et donc, j'avais vraiment 30 jours pour... On avait de l'argent, quoi. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, parce que là maintenant, je connais beaucoup. Enfin, je suis dans le secteur depuis longtemps, donc c'est simple, ces trucs-là. À l'époque, je connais personne. Bon, au final, un mois et demi après, j'avais levé 1,5 million auprès d'une vingtaine de personnes qui avaient mis des tickets à gauche, à droite, etc. Et donc, j'avais remboursé. Quand j'ai fait ça, quand les 1,5 million commençaient à tomber sur le compte, j'étais vraiment content. Parce que j'étais vraiment à deux doigts de. Actuellement, j'avais viré à ce moment-là la moitié de la boîte.
Okay.
Du coup, ceux que je venais d'embaucher 3 mois avant, il fallait que je les sorte, etc. Donc, c'était pas très marrant non plus, quoi. Mais je suis parti en mode, je sais pas, t'as un marathon à faire, deux mois avant ton marathon, tu toc. Ouais, c'était un peu pareil. Donc c'était un moment assez satisfaisant, à titre personnel, puisque c'est des trucs que personne ne voit en fait. T'arrives au bureau, personne ne sait ce qui se passe d'ailleurs, t'es dans ta tête, et tu prends ton tunnel et t'y vas. Mais j'ai fait, je sais pas, 100 calls, hein. Enfin, 100 personnes, hein, je les ai appelés.
T'aimes bien cet aspect sales?
Pas du tout. C'est pas du tout un truc qui me fait pas plus que ça. Moi j'aime bien vendre, je suis un vendeur. Mais le fait d'appeler. Tu vois, j'ai envie de dire un mot vulgaire, mais bref, d'appeler un peu au hasard des gens que tu connais pas et de faire salut, tu me prêterais pas un peu d'argent? C'est pas du tout un truc qui me fait marrer. Donc,
parce que là, c'était plus de la love money, c'était comment?
C'était. Non, pas de la love, ils me connaissent pas. C'est du, ah, okay. Ni du friend, non, j'ai pas des gens, je connaissais pas.
Ah, ok, d'accord.
Il y a une personne qui est rentrée qui m'a dit c'est incroyable, j'adhère complètement, tiens, j'ai deux potes, et puis je fais des calls, et puis les gens commencent à faire des commitments.
Et là, ton objectif, c'était de retrouver les 7 millions ou juste le.
Ah, c'est impossible! Non, j'ai mis un truc d'1,5 million parce que ça m'achetait de la trésorerie pour rembourser la BNP de 1 et 2 jusqu'à juin. Et du coup, je me suis dit, du coup, je refais ma levée de fonds en juin. Et en juin, du coup, j'avais levé 15 à la place avec un des fonds qui n'était pas rentré en janvier. Hein.
Ok.
Pas de rancune. Business is business. Donc, non, parce que c'est pas méchant, c'est pas contre moi. C'est juste que. Donc,
et le moment de victoire pour toi, c'est les 15 millions ou c'est les 1,5 million ou le symbole
15 millions, c'était très, 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 très. En fait, très, très rare en France. Donc, forcément, c'était agréable pour moi à titre perso d'achievement. Après, je le cache pas mal. Hein. Je suis pas arrivé au bureau en mode. Bon. Pas de... mais forcément, c'était d'ailleurs chaque levée de fonds était un peu en avance de son temps. Et du coup, pour moi, c'était des gros achievements. Après, le 1,5 million, c'était particulièrement fou. Donc, j'avais. Ouais, c'est... Quand tu arrives, c'est agréable, quoi. Tu rentres chez toi, tu vas voir ton conjoint ou ta conjointe et t'es en mode. Ouais, t'es content. Ouais. Chacun son métier. Si tu fais de la prod, t'as un film qui sort et les Césars, bah, t'es content. Bah, moi, j'ai réussi à faire un truc compliqué à faire, très honnêtement, avec des fonds que tout le monde savait qu'ils allaient dropper les fonds, donc c'est pas très rassurant. Hein. Et mais pourquoi ils ont arrêté le deal? Ils ont découvert quoi? Non, mais rien du tout, c'est un problème comptable. Va raconter ça. J'avais pris une caution perso, 500 000 balles à titre perso, enfin, on était de 250 000 balles. Je sais même pas comment je pouvais rembourser ça, en fait, ça n'avait aucun sens. Forcément, quand tous les carrés rentrent dans les ronds, ou l'inverse, je sais plus, j'étais content.
Toi, aujourd'hui, comment ça fonctionne ton... T'as beaucoup de sales, ça t'a combien?
Plus beaucoup, j'avais beaucoup avant le Covid. Covid, on a dû arrêter. Ouais. Toutes ces choses, puisque personne ne commandait rien. Et là, on doit être dans le monde. Une trentaine?
Une trentaine.
On n'en a pas beaucoup. Là, je suis en train de rescaler, justement, la partie vente.
Tu l'as automatisé, tu l'as processé, l'onboarding d'un sales? Je te pose la question.
Oui.
Ok, parfait. Et donc, du coup, ça se passe comment, en fait? Je suis sales, je rentre chez toi, je vis quoi, en fait?
Alors là, un peu moins, parce que j'avais du coup des personnes qui s'en occupaient et qui ne sont plus là, parce que du coup, si y a moins de vendeurs, les gens qui s'en occupent aussi, tu n'en as plus. Pendant le Covid, donc là c'est un tout petit peu moins vrai, mais vu qu'on recommence juste à recruter et on va devoir remettre ces process en place, mais il y avait un agenda qui dure 2 semaines. Ça commence par un onboarding croissant à la cafette du bureau pour dire bonjour, on explique, donc t'as 2 jours, on t'explique la boîte, et après tu rentres sur ton métier à toi. Et donc là tu passes par différentes étapes de comment on fait un cold call, comment on fait un mail, c'est quoi les logiques,
ça se passe comment, c'est en écrit, c'est en vidéo,
en présentiel? Non, c'est au bureau.
C'est au bureau avec un formateur?
Avec des formateurs, mais qui sont internes. T'as des gens qui font que ça, quoi.
Ok, qui faisaient que ça, en fait. Qui formaient, en fait, toutes les personnes qui arrivaient.
Oui, exactement. Et en fonction de ce qui fonctionnait, fonctionnait pas, on rendait compte qu'il y avait des points qui n'étaient pas bien compris, donc il fallait adapter. Donc c'est un truc ongoing sans fin. Il faut comprendre le produit, il faut comprendre comment nous on aime vendre, c'est quoi les techniques de vente qu'on utilise, comment tu pitches ton produit une fois que tu l'as compris, etc. Donc à la fin, t'as des tests. C'est même tout bête, hein, c'est pas pour piéger les gens, c'est pour comprendre si vraiment il a compris. Quand tu rentres sur du software, t'as vite des trucs techniques un peu embêtants. Mais s'il l'a pas compris, il va avoir des problèmes. Et après, t'as les techniques pures de vente, sur lesquelles là, je suis en train de retravailler maintenant. Je suis en train d'hésiter, pour être franc, mais j'ai un problème de temps.
Hésite entre quoi?
D'écrire un papier, enfin, ou un livre, j'en sais rien, mais sur les techniques de vente, pour des trucs vraiment standards, un très bon vendeur ne va pas avoir. Et donc, en fait.
Par exemple, t'as des idées de choses que tu vois, en fait, qui.
T'arrives avec un produit, et ton produit, il vaut 10 balles par mois, par exemple. Mais c'est le vrai prix, quoi, parce que t'as une marge à maintenir, etc., etc. Mais la réalité, c'est que la plupart des vendeurs sont incentivés sur le revenu, quand c'est pas le revenu, sur la marge. Quand t'es incentivé sur la marge, tu te prémunis contre les baisses de prix que le vendeur va pousser. Ok. Mais néanmoins, entre vendre rien et vendre un truc à 7 euros par mois, au lieu de 10, sur lequel il prend peut-être que 1 euro de marge, mais il a vendu 10 000 licences, donc il prend quand même, tac, au final, il prend quand même 3 000 euros de com, j'en sais rien sur ce deal-là, bah, il va quand même pousser vers 7 euros. Et je me suis rendu compte que les gens, chez moi, vendaient davantage une logique de le client apprécie le produit, je vais maintenant essayer de l'arranger, ce que je trouve fou pour moi, plutôt que je vais vraiment faire kiffer le produit au client. Par contre, les conditions, je pense qu'elles sont, t'en veux pas, quoi. Point. Et ça, il faut vraiment que je travaille dessus. Le sales va avoir. Mais c'est net, moi je suis vendeur de base aussi, hein, donc je comprends très bien la logique, c'est pas un reproche. Mais ça va être, putain, ce micro, etc. Le mec va dire, attends, 1000 euros, micro, c'est mort. Non, mais attends. En vrai, pour 800 balles, je pense qu'on va s'arranger. Là. Le mec me fait perdre 200 balles, en fait, là, c'est quoi cette histoire? Et je l'ai vu, je suis en train de faire un appart, là. Je suis allé chez un truc pour acheter un tapis roulant, et puis je fais pareil pour un canapé, là. J'ai un beau concept. Et en fait, j'ai rien demandé. Et je suis à la caisse et le mec il me fait 15% de remise, 15% en moins. Il dit, mais j'ai vraiment rien demandé.
Ou alors t'allais acheter 100 quoi.
J'allais acheter 100 ou alors j'ai commencé à négocier, il m'a fait. Surtout s'il me dit 15 par mail, je sais que je peux aller prendre 30. Hein. Bon, ça c'est évident. S'il me dit 15, c'est que je peux prendre 30. Alors peut-être qu'en fait, s'il m'avait rien dit, j'aurais pris 10. Au lieu d'essayer de me faire vendre, en tout cas de valoriser son produit, parce qu'un produit n'est pas censé être acheté au rabais. Hein. Et donc je le vois même dans ma vie perso tous les jours, on me fait des rabais que j'ai pas demandé, c'est fou. Tapis roulant, j'ai eu 20% en moins. Je sais pas pourquoi. Et donc sur la partie sales, je sais que là-dessus, je suis pas très bon chez moi. Et je suis en train de regarder comment travailler ce sujet.
Comment tu vis? Parce que tu vois, on t'en parle de manière relativement, enfin, une forme de neutralité. Et comment tu vis là, toutes ces oscillations d'avoir eu plein de personnes? Il y a le Covid qui arrive, c'est une grosse start. Ça l'a été pour nous parce qu'on était 60% événementiel. Donc le Covid, ça a été violent pour nous d'avoir 60% qui part du chiffre d'affaires. Ouais. Mais comment toi, tu as vécu en fait d'avoir une activité qui est basée sur des photographes qui se déplacent,
d'interdiction.
Oui, du coup, événementiel. De te retrouver à devoir te séparer d'une grosse partie de l'équipe, des gens potentiellement avec qui ça se passe super bien, voilà. Qui sont talentueux, avec qui tu te développes, avec qui tu t'es imaginé aller faire des trucs de ouf. C'est complètement pas de ton ressort. Là, c'est vraiment externe. Raconte-moi un peu, c'était comment émotionnellement en fait, de vivre tout ça?
Bon, déjà, il y a les trucs qui ont été de mon ressort probablement, même c'est sûr d'ailleurs. Mais oui, dans les faits, il y a eu une petite crise mondiale qui est passée par là et qui, dans mon titre d'industrie, c'est moins bien, c'était moins marrant que pour d'autres amis qui, au contraire, c'était plutôt bienvenu. J'en parlais ce week-end, ce sujet très précisément. C'est arrivé, quand on fait un peu t'essaies de poser, on fait jamais ça, moi, sauf en entretien bidon quand t'as 20 ans, mais tu demandes là où t'es fort, là où t'es moins fort, tes qualités, tes défauts humains dans la vie de tous les jours, ou tes qualités humaines dans la vie de tous les jours. J'ai un petit truc particulier qui fait que je ne ressens pas vraiment le stress. Je sais pas trop d'où ça vient. Et j'en parlais ce week-end avec une personne qui était pareil. Du coup, dans les faits, je sais que sur le papier, cette période n'est pas du tout marrante. Mais moi, malgré les fonds d'investissement qui n'ont été pas toujours rigolos dans cette période-là, malgré mon comité de direction qui était lui aussi pas toujours de très bonne humeur dans cette période-là, etc. À titre perso, je n'avais pas de stress particulier, que ce soit parce que j'ai un mois de cash devant moi et que du coup, en fait, dans un mois, il n'y a plus de boîte, ou que ce soit parce qu'il faut licencier beaucoup de personnes. Parce que, effectivement, chez moi, malheureusement, ça s'est traduit en des licenciements assez forts. Donc, je ne l'ai pas particulièrement mal vécu. En revanche, j'ai un truc à faire, je le fais. Et en réalité, la résilience, je pense, en métier de PDG, parce que c'est comme ça que c'est un peu pompeux, mais c'est comme ça que ça s'appelle, que ce soit chez Airbus avec je ne sais pas combien de dizaines de milliers de personnes, ou que ce soit dans une entreprise qu'on a 8, la résilience, c'est important. Au bout d'un moment, tu atteins un plafond. Donc, que ce soit au bout de 8 ans, de 2 ans, bon, c'est plus sympa quand ça fait 8 ans, quand ça fait 2 ans. Alors, au bout d'un moment, il y a un truc qui ne se passe pas comme prévu. Et donc, alors là, si tu commences à être un peu fragile, tristounet, déprimé, etc., etc., ta boîte, elle plante.
Tu as des questions que tu aimes te poser pour faciliter cette résilience?
Donne-moi un exemple.
Tu vas devoir te séparer de 30% de l'effectif. tu peux facilement, tu vois, c'est facile de basculer dans putain, fais chier, il y a des talents qui sont en train de partir, des gens que j'apprécie, c'est relou.
Je me projette pas du tout. J'ai un truc à faire. Enfin, je sais que je suis comme ça et je coach pas mal de gens sur ce sujet-là d'ailleurs, qui vont vivre différemment, c'est-à-dire qui vont mettre les mots que tu viens de dire dans leur tête. Et voilà, ça commence à tourner en rond. Et là, c'est la dépression. Je ne le vis pas comme ça. C'est-à-dire que j'apprends un matin, j'attends 2-3 mois, j'attends, je vois que malheureusement, pour que ce soit rentable, pour que le truc, enfin rentable, pour que ce soit pas l'effusion de sang ou d'argent et que, etc., il faut par exemple licencier 300 personnes. Bon, bah, la décision elle est prise, c'est comme ça quoi. Après, derrière, c'est comment je pense que ça se passe bien, comment j'accompagne les gens tout en respectant des lois pour que tout le monde soit le moins malheureux ou le plus heureux possible. Mais s'il faut sortir 300 personnes, c'est comme ça. L'année d'après, là, on a je sais pas combien de postes ouverts, des dizaines de postes ouverts dans tous les sens. C'est comme ça. Je ne le vis pas difficilement. Okay. Non, je peux pas te répondre là-dessus parce que je dois me projeter dans le cerveau d'une autre personne pour comprendre ce okay. qu'elle vit, quoi.
Tu peux me parler de la dernière levée de fonds?
Ouais.
J'ai entendu rapidement dans un podcast que tu as fait, c'était une levée de fonds qui est ben, pour le marché francophone est bien plus élevée que ce qui se fait. Et la différence qu'il y a eu dans la réaction des médias et des gens entre les levées de fonds précédentes et celle-ci. Tu peux me raconter un petit peu ce qui s'est joué entre déjà le moment, on va démarrer l'histoire au moment où tu signes cette levée de fonds, ce que ça te fait, et puis après, ou peut-être même juste avant si tu veux, si c'est des anecdotes intéressantes ou drôles ou peu importe, pour arriver à rendre possible une levée de fonds de cette taille, que je vive un petit peu pareil, ce voyage au travers de tes yeux entre je vais partir sur cette levée de fonds, le montant il était défini dès le début ?
Ouais, j'ai mon montant fixe que je voulais pas déroger, auquel je voulais pas déroger.
C'était quoi ? 200 ?
C'est 200.
Ok, donc tu avais décidé avec tes équipes potentiellement, on va faire 200 millions. À partir du moment où tu le décides, jusqu'à plusieurs mois après, raconte-moi un peu par quoi ça, comment ça se passe.
C'est la première phase où le problème, c'est que tu as besoin des gens pour faire 200 millions et tout le monde te prend un peu pour un fou à ce moment-là. Première phase.
Tout le monde, c'est qui ?
Les équipes proches, okay, parce qu'on n'annonce pas la boîte, ça. Hein. C'est un truc un peu privé où tu dis on va y aller, mais c'est pas un truc que tu annonces à la boîte entière. T'annonces 2-3 trucs, t'annonces pas les montants, tu quand même te protèges un peu, mais tout le monde a conscience qu'on est de toute façon en process de levée de fonds tout le temps, donc voilà. Mais donc le 200, il est un peu agressif. T'as la deuxième étape, tu l'annonces en board. Bon, alors là, du coup, je me suis vraiment pris des râteaux, quoi.
J'aime bien cette idée de Redalio, entoure-toi de gens brillants qui sont pas d'accord avec toi. C'est quoi les remarques pertinentes qu'ils t'ont dit ?
C'était de dire, t'es perché, tu lèveras pas 200 avec ton revenu, ton machin, ton truc. Levons, j'en ai parfaitement de ces moments de vie évidemment, levons, en reste, on lève 75 millions, nous au board on remet 30-40, on va chercher un fonds tiers pour compléter auprès de 30, on fait une introduction, ça marcherait bien, et moi j'entends 75 millions, vraiment je suis au board, je fais mais alors pas du tout.
C'est la loose.
Mais c'est vraiment, ouais, non, impossible.
C'était cette quatrième OGO.
Mais je le vis comme ça, mais d'ailleurs c'est un problème, mais je le vis comme ça, donc c'était mort. Donc moi je voulais lever 200, point. Et donc, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre, on regarde mes chiffres et tout, je tirais un peu la couette. Un peu beaucoup même d'ailleurs. Surtout à l'époque, maintenant c'est un peu plus avec le même montant de revenus, je pense j'aurais fait 400. Mais bon voilà, non, j'en sais rien, mais en tout cas les montants ont quand même bien variés.
Et juste pour quelqu'un qui n'aurait pas levé ses montants ou ne pas levé du tout, l'intérêt pour toi de lever plus, ça va être quoi ? Sachant qu'on soit d'accord que tu donnes des parts de ta boîte.
Et ça change pas beaucoup combien tu perds. Hein, parce okay. que en fait, t'as des.
Tu changes
des
valeurs de ta boîte du coup.
Exactement. T'as des comparables de marché, tu perds pas 50% de ta boîte sur une levée de fonds, ni 5%. T'as entre deux, t'es plus ou moins 25-30. Donc, que tu lèves en premier tour, par exemple, 1 million ou 5 millions, tu perds 25%. Donc, vaut mieux lever 5. Ça ne change pas. Ce n'est pas genre ta boîte vaut 10. Du coup, si tu lèves 5, tu perds 50. Si tu lèves 1, tu perds 10%. Ça ne marche pas du tout comme ça.
C'est qu'en gros, la moyenne, c'est.
25.
Tu vas donner 25% de ta boîte.
Vous avez moyenne change sur les tours.
Ah, 25% de tes parts restantes ou 25% de la boîte ?
De la boîte. Donc, la boîte, elle avait 100 actions. Tu fais une augmentation de capital. Donc, tu passes de 100 à 125 actions. Et du coup, toi, si tu avais 30 actions sur 100, tu as 30 actions sur 125 maintenant. Donc, si tu avais 30%, tu n'as plus que 25% ouais. de la boîte. Voilà. Et donc la question c'est pourquoi je suis allé lever 200 et pourquoi pas 150 et pourquoi pas 250. Alors la beauté de la chose c'est que j'avais théorisé le fait en interne, j'avais demandé à des gens de me faire de m'analyser les encours de crédit à l'automobile et tout, je faisais un peu le débile là-dessus aussi, mais je regardais parce que j'avais l'impression qu'une crise allait probablement arriver prochainement parce que statistiquement ça faisait trop longtemps qu'il n'y avait pas de crise. Bon, et du coup je me suis dit
ça faisait
10-12 ans, ouais, c'était bizarre. Donc statistiquement, il y a un truc qui allait se passer. Et comme je voulais pas juste dire cette phrase un peu bête, j'ai commencé à essayer de la baquer par des chiffres. Donc je montais les encours du prêt étudiant aux États-Unis qui est en train d'exploser, les taux de défaut qui augmentaient, etc. Bon, ça servait absolument à rien. Mais j'avais au moins une petite théorie derrière. En fait, bon, c'est le Covid qui arrivait. Bon, bref, évidemment complètement prévisible. Mais dans les faits, je disais, je devrais lever 130 millions. Je vais élever 200. Il y avait 20 millions, c'était pour du contenu. Donc, j'ai parlé des documentaires, des masterclass, j'ai un magazine photo, etc. machin.
Ouais.
Qui apporte une fondation sur la photographie qui apporte absolument rien. La boîte.
L'image ?
À peine. À peine. C'était, oui, un peu, mais en fait.
Alors, comment tu penses au board ?
C'est la question. Ben, je leur demandais que... Mais ce qui est vrai, qu'à terme, tout ça allait faire un bel écosystème autour d'un même sujet qui était rendre l'Internet plus beau, améliorer la condition de vie et d'autres choses de la photographie, etc. Une partie de ça, pour y aller, métier de photographe, il fallait l'inspirer, donc faire du contenu inspirationnel, il fallait faire plein de choses comme ça. Et donc, j'ai mis là-dedans, quoi. Compliqué. Parce qu'un fonds d'investissement, c'est pas qu'ils sont méchants ou gentils, c'est qu'ils ont eux-mêmes des trucs à faire et qu'ils sont pas là pour investir sur une charité. Bon. Donc, compliqué. Et après, en dessus des 20, j'avais 50 de plus, absolument pour rien, simplement parce que je disais qu'il allait avoir une crise. Bon, dans les 3 ans qui venaient. Ce que les gens étaient, entendaient bien hein, dans l'ensemble.
Ouais.
Et donc, je disais, si je lève que 130.
Parce que l'idée, juste pour donner du contexte, c'est qu'en gros, quand tu regardes les 50 dernières années, tu as une crise tous les 8 ans.
Ouais, mais ça serait d'ailleurs, ça aurait pas été le Covid, ça aurait probablement été autre chose. Hein. De toute façon, ça aurait été l'Ukraine, ça aurait été ce que tu veux, il y aurait un truc qui aurait fait quelque chose. Quoi. Et c'était très bien entendu. Mais du coup, ça me demandait de lever beaucoup plus d'argent que prévu, avoir une valo du coup, qui décalait bien à la hausse. Et du coup, c'était dur. Et donc, quand j'ai réussi à convaincre des très grands fonds, au demeurant, ah, pareil, c'était chouette parce que c'était vraiment pas sûr du tout.
Alors là, comment ça se passe? Une fois que tu as eu la validation confirmée définitive, tu fais quoi? Raconte-moi un petit
du
peu
coup,
comment,
alors,
ta personnalité.
T'as Eurazeo, qui est un des plus gros fonds européens et puis du monde, de toute façon, qui met une term sheet. Du coup, t'as un lead investor. Donc, comme il y a une première term sheet, tous les autres term sheets qui attendaient qu'il y ait un mec qui prenne le lead, un mec reconnu sur la place prenne le lead, suivent. T'as ton tour, et puis là, t'as ton fameux audit. Ça, une due diligence. Ça dure 2 mois, et là, ils creusent dans la boîte pour s'assurer que je n'aurais pas dit n'importe quoi. C'est tout à fait logique. Donc, ils vont ouvrir la tech, ils vont ouvrir les chiffres, ils vont ouvrir tout plein de trucs pour s'assurer déjà ce que je fais le revenu que je dis que je fais, quoi. Bon. Et puis après, t'as le closing. Bon, et le problème, c'est que ils voulaient me mettre des clauses dans le contrat final, qui fait genre 300 pages, en anglais, tout ça, très chiant, un petit peu embêtant, tout ça. Que je ne voulais pas, quoi.
Par exemple, le fait de pouvoir partir, enfin de pouvoir être éjecté, des trucs comme ça?
Non, moi je suis éjectable à tout moment. Non, c'est des clauses de ratchet, des clauses de liquid pref, par exemple. Si tu fais un tour au tour suivant qui a une valorisation qui est inférieure du tour précédent, donc mettons que j'ai levé sur 1 et le tour d'après, je refais un tour, il y a eu le Covid, ce que tu veux, et la valo vaut plus 1, ça vaut 0,8.
T'as bien fait de changer pour le coup.
Il y a plein de trucs comme ça qu'il faut bien. Il y a des trucs sur lesquels du coup ils rachètent plus de parts gratos pour compenser le fait qu'ils sont rentrés de valo trop haute la fois d'avant. Mais il y a plein de trucs comme ça.
Et ça, tu le trouves comment? T'as des conseils, des avocats qui vont t'aider à avoir ces réflexes-là? Parce qu'effectivement, t'as plein d'entrepreneurs qui, c'est pas leur focus, c'est pas leur passion et qui vont pas faire attention à ces détails.
Bon, d'abord, il faut avoir effectivement un bon avocat. Moi, j'étais très bien conseillé sur ce petit sujet-là. Mais tu sais, les avocats, les architectes, ce que tu veux, ils font quand même beaucoup de conneries. T'as beau avoir un mec que tu payes 500 euros l'heure, il faut quand même bien derrière tout relire, notamment la partie business, etc. Parce qu'il y a des erreurs vraiment partout. Il ne faut surtout pas dire. Il y a des métiers comme ça, médecin, où il y a une espèce de tatou qui fait quand tu dis un truc, t'as raison. Pas pourquoi. Alors qu'en fait, d'abord, les avocats, la plupart sont nuls, comme dans tous les métiers du monde. Donc la moyenne.
Tu me rassures, parce que moi, j'ai pété des câbles plein de fois avec les avocats.
Mais bien sûr, la moyenne est basse, déjà, hein, donc faut trouver des avocats au-dessus de la moyenne. Et après, même les personnes brillantes que tu payes des fortunes font des erreurs, ils ont des moyens de compréhension, ils poussent des idées business, c'est pas leur taf, ils font du droit qui font pas de sens, ils vont négocier un bail commercial, le mec, pas du tout, etc., etc. Ils vont dire, mais si, c'est comme ça qu'il faut faire dans le marché, etc. Je dis, mais pas du tout, on va pas faire ça comme ça. Et voilà, il faut se battre un peu. Donc la réalité, c'est qu'il faut être entouré de bons avocats de base. Moi, j'avais un très bon avocat, notamment très pédagogique, pour expliquer des petites clauses et leurs implications et donc pourquoi il faut faire attention, très important. Et après, derrière, c'est toi. L'avocat, il dit, voilà ce que j'en pense, et toi, tu dis, non. Ou oui, peu importe. Et donc, tu regardes ce sur quoi tu es prêt à te battre. Et les trucs sur lesquels c'était non. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment du closing, donc quand tu te réunis à tous ensemble, il y a beaucoup de fonds, il y a 7 fonds à mon board, autour du closing, et on n'était pas d'accord. Et donc, le closing a duré, je ne sais plus, 6 heures, je crois. J'ai des photos mordes. Mais parce que les gens n'étaient pas d'accord, quoi. Moi non plus, eux non plus, on n'était pas d'accord. Du coup, on pouvait pas signer le contrat, quoi. Ils voulaient des trucs.
Et quand est-ce que tu lâches?
On a tous un peu lâché à différents endroits. Moi j'ai lâché, je sais plus précisément sur quoi, mais c'est 2-3 sujets qui n'étaient pas non plus, je pouvais faire avec. Et de l'autre côté, des sujets de valo, de choses comme ça, où c'était hors de question que je lâche, et eux ils me justifiaient, je faisais non. Du coup, mais en fait,
t'es prêt à perdre à ce moment-là, t'es prêt à.
Et dans toute négociation sales, toute négociation, si t'es pas prêt à perdre, t'as perdu. C'est pas compliqué, tu vas faire marcher dessus. Donc quand tu dis quelque chose, si t'es pas prêt à te maintenir ta position, et si ça se fait pas, ça se fait pas. Ça veut dire que si le mec insiste un peu trop longtemps, tu vas craquer. Donc en fait, t'as pas de position. Donc en fait, tu te fais rouler dessus. Donc oui, j'étais tout à fait prêt à ce que le deal ne se fasse pas. Même si au fond de moi...
Oui, t'as envie qu'il se fasse.
C'était une levée de fonds aberrante et qui en plus me donnait la trésorerie dans ma boîte pour faire des choses grandioses, notamment de passion. je te parle de contenu, etc. C'est
vraiment, bah, on va y venir. Donc du coup, là, tu, au bout de 6 heures, tu signes.
Finalement, on signe. On réimprime pour la 58e fois. Papier, bon, faudra faire ça autrement la prochaine fois. Mais à l'époque, les gens ont besoin de papier, etc. Donc on réimprime pour la, je sais pas combienième fois. Truc de 300 pages. Tout signer et tout, ça prend 2 heures. Ça signe et c'est fini. Tu te dis, du coup, comment tu réagis? Je suis rentré chez moi, j'avais une compagne à ce moment-là et j'étais très heureux. Maintenant, comme je m'attendais, c'est un peu ça la différence entre marquer un but dans le foot et faire une levée de fonds, c'est que ça fait quand même des mois que t'es dessus et qu'en fait, inconsciemment, tu sais que ça va arriver. T'es quand même au closing, quoi. Et t'as déjà fait la fête un peu progressivement dans ta tête. Il n'y a pas un moment de gloire comme quand tu marques un but ou quand tu gagnes un tournoi dans ton sport, tu finis premier en te battant à 30 partout sur un set ou je sais pas quoi. Un set de volée. T'as pas de. Donc, j'ai pas eu ce moment de gloire. Mais
c'est et en plus de ça, aussi, la différence, c'est qu'entre guillemets, il y a une pression qui va avec ces 200 millions.
Non, mais moi, je suis tranquille là-dessus, justement.
Ok.
Ouais, j'ai pas de problème là-dessus. Par contre, ouais, c'est pas une pression. Mais tu te dis, hein, maintenant, j'ai une valo qui est un peu élevée, il va pas falloir déconner, quoi.
Et comment tu gères la partie lubris, c'est-à-dire le côté. Là, on vient de mettre 200 millions sur moi, sur ma boîte, bien sûr. C'est facile de se sentir particulier, de se sentir spécial, d'avoir son ego qui gonfle. Comment tu gères ça?
Alors vraiment, il y a un des trucs dans le recrutement de toute la boîte, et d'ailleurs je sais que je peux inspirer parfois l'inverse de ce que je vais dire maintenant, vraiment pas d'ego quoi. Il n'y a eu aucun ego pour personne, tout le monde est gentil chez moi, il n'y a pas d'ego. C'est vraiment le critère de base quand on recrute, tu viens chez moi parler à n'importe qui, il n'y a pas d'ego. Donc je me suis senti...
Et en tout cas, l'ego c'est quelque chose d'humain, donc oui. Comment tu le gères à ce moment-là? Comment tu te permets de simplement revenir... De te recentrer.
Mais j'ai pas eu de boost d'ego. D'ailleurs, j'ai pas eu de boost d'ego. J'ai eu un boost de contentement. T'es fier de toi-même. Toi, tu peux avoir de la fierté, mais qui est très introverti. Tu pensais il y a 10 ans en école, t'en rêvais, si tu veux. Concrètement, d'être arrivé à ce niveau-là, entrepreneuriat. Tu commences, t'as un salarié, tu es dans une chambre de bonne au début pendant 2 ans. Bon, tu te dis pas, quelques années plus tard, t'es là. Donc, t'es fier de toi un petit peu. Ouais. Et en même temps, tu pars au boulot. Donc, Et puis, il y a toujours le petit problème du syndrome, hein, où vu que t'es là, c'est que c'est facile. Donc, en fait, c'est pas si bien que ça, quoi. C'est classique. En fait, ce que j'ai fait, ça avait l'air, en fait, in fine, assez simple. Puisque je viens de le faire, c'est que c'est simple.
Est-ce qu'à ce moment-là, t'es déjà dans le prochain truc?
Ouais, tout de suite.
Oui, donc c'est aussi ça qui fait qu'entre guillemets.
Mais ça te paraît simple tout de suite. Toi, tu te dirais, tu montres une chaîne YouTube, tu te dirais, je vais arriver à un million de d'abonnés, c'est incroyable, etc. Bon, bah, t'arrives à 1 million d'abonnés.
Oui, ça fait des mois que tu bosses dessus.
Ouais, et puis au final, c'était pas si compliqué. En fait, tu te dis, putain, 10 millions, par contre, c'est quand même vénère. Bon, et en fait, t'es jamais content. Donc, c'est un sentiment qui est un peu dommage vis-à-vis de soi-même. Et ça, en même temps, c'est un sentiment qui te pousse à faire toujours mieux, en espérant que cette quête du toujours mieux ne te rende pas triste sur le long terme. Mais,
donc là, tu fais 200 millions, tu retournes. Et là, est-ce que tu t'attends à ce qui va se passer au niveau médiatique?
On s'est fait un peu défoncer. mais que en France, hein, quand même. Parce qu'on a une présence, notre chiffre d'affaires est très peu en France et très largement à l'étranger. Hein. Je n'aurais pas expliqué pourquoi, mais on a eu tous les projecteurs tournés vers nous, puis vers moi d'ailleurs, au passage. Et beaucoup de gens pas contents. Beaucoup de gens pas contents dans le monde de la photographie. Et beaucoup de gens pas contents dans le monde de je sais pas quoi. Des gens qui sont pas contents que d'autres gens fassent des trucs. Je sais pas quoi.
De simplement le montant, en fait.
Ouais, t'as l'impression que. Bon, t'as les mots-clés qui changent, c'est absolument incroyable. Hein. Tu passes de CEO de start-up à PDG ou à patron. Des articles, tu vois, les mots changent. Le patron du groupe, des trucs comme ça, c'est la même personne qu'il y a 3 mois, mais bon, t'es patron du groupe. Donc t'as les mots-clés qui changent, qui sont un peu méchants. T'es patron, c'est pas très cool. Hein. Alors que CEO, c'est sympa. Et donc il y a un peu de trucs comme ça.
En plus, les journalistes, ils adorent réutiliser des petits adjectifs comme ça, des termes. Le patron, plusieurs fois dans l'article.
Ah ouais, le patron. Et alors, si t'es, je sais pas, parfois il y a le mot milliardaire, des trucs comme ça. T'es là, mais c'est vraiment juste méchant. C'est pas un mot qui dit, ah, oh, trop bien, milliardaire. Non, c'est le milliardaire. Je sais pas trop ce qu'il fait avec son argent, lui. Bon, c'est un peu. Voilà. Donc, j'ai eu des trucs comme ça. Après, j'ai eu une bonne palanquée d'articles sur lesquels, moi, à titre perso, mais je ne sais pas pourquoi, je me suis fait dézinguer. Des trucs complètement absurdes. Mais tout est faux en plus. Vraiment, tout est faux. Je sais pas quoi te dire.
Et ça te fait quoi, par contre? Sur le moment.
Vraiment rien. Et c'est juste en interne, c'est embêtant quand il y a écrit, il y a encore un.
Mais je crois pas que ça te fasse rien du tout. Ça te fait forcément quelque chose.
Non, d'avoir... vraiment, vraiment rien. 0%. Genre, je te dis franchement, ça me fait vraiment 0%. Zéro. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont là savent que c'est faux. Donc il n'y a pas de sujet, quoi. Je me souviens qu'il y a un article qui avait écrit 4 pages dans un des gros magazines français. Pas sur Miro, mais sur moi. Qui parlait de culture d'entreprise. Et donc qui dépeignait une culture qui était malsaine. C'est ce qu'il écrivait dans le truc. D'ailleurs, quand tu lis l'article, c'est compliqué de penser autrement.
Et ça t'impacte forcément, vu l'énergie que tu mets dans ta boîte.
Alors là, j'en viens. D'abord, moi, à titre perso, d'abord, je sais pas, ils ont trouvé des histoires farfelues. Donc, il y a écrit Thomas Rebaud qui demandait des poèmes sur lui. Je trouve plus la phrase précise, mais supposément, comme quoi j'avais demandé aux employés de la boîte d'écrire des poèmes sur moi. Parce qu'il y a un truc comme ça qui s'est passé, puis ça n'a rien à voir avec ça. Puis c'est évidemment pas moi qui demandais, puis c'était une blague d'un mec. Bref, du coup, tu te trouves à dire des phrases comme ça horribles où t'as l'impression que t'as une espèce de mégalomane égocentré terrible. Donc les mecs disent n'importe quoi, tous les chiffres sont faux, les revenus, les marges, tout est faux. Je sais pas d'où c'est terrible. Et en plus, il dépeignait une culture qui était somme toute assez moche, celle qu'on va dépeindre pour WeWork, si tu veux, dans les moments.
Ça crée forcément une émotion, tout ça.
Non, colère. Non, vraiment pas, je te jure. Par contre, en interne, ça crée des problèmes. C'est ça qui est chiant. C'est quand on dit, t'as la boîte, je sais pas quoi, on commence à raconter des histoires comme quoi. Telle personne est sous-payée. Apparemment, je paye des gens dans la boîte en dessous du SMIC, ou je sais pas, des trucs comme ça, et puis, etc. Ils mettent le doigt sur plein de trucs un peu complètement fous. Et ben, en interne, ça tourne en interne, et puis là, machin. Et c'est ça le sujet, tu vois. Les articles qui sont sortis sur des sujets de Valo récemment, où ils disent n'importe quoi, et tu vois le truc, et donc ça commence par l'interne. Du coup, je vais prendre la parole pour dire, messieurs, dames, ils ne savent pas calculer correctement, tout va bien, il n'y a rien qu'à changer. Il y a une personne en ce moment qui a écrit un mail, un LinkedIn à 200 personnes de la boîte pour faire un article complètement, un objet complètement débile, complètement faux, et donc personne répond, mais toi, je sais qu'il y a un truc qui va sortir, et donc moi après je dois en parler en board, etc. J'ai eu un truc sur Instagram où on s'est fait bien défoncer sur différents sujets, et donc côté boîte, c'est chiant, parce que c'est déjà suffisamment difficile de faire une boîte qui fonctionne, d'engager les gens, d'en mettre de la passion, du travail, et qu'on arrive à nos...
Oui, donc quand tu dis chiant, il y a que c'est une émotion derrière. Il y a quand même quelque chose qui est frustrant.
Non, c'est que ça m'embête qu'on m'empêche d'avancer plus vite que ce que je pourrais avancer et que je dois régler ces sujets. Après, chacun son métier. Journaliste, c'est très souvent très bien, très souvent pas bien aussi, les articles qu'on voit, de manière générale. Ils sont souvent pas très renseignés sur les sujets, etc. Je trouve qu'il y a parfois un petit problème quand même sur le sujet. Et non, ça me passe franchement.
Par exemple, tu disais que tu faisais du sport. Dans le sport, c'est quoi les différentes émotions que tu ressentais?
Ah, en sport, j'ai beaucoup d'émotions par contre.
Par exemple, c'est quoi les émotions?
La tristesse, tu peux pleurer en sport, hein. Tristesse, la hargne, la victoire, la joie.
Et ces émotions-là, comment elles se traduisent dans le business, par exemple?
Elles ne se traduisent pas du tout. Je ne sais pas comment tu essaies de me tirer ce...
Non, mais
ce petit verre du nez, mais je ne suis pas froid, parce que je ne suis pas froid dans ma façon... Je ne pense pas être froid dans ma façon d'être, mais je suis assez plat côté business. J'ai pas trop de... Par contre, ça arrive, tu signes un beau client, tu sors de ton bureau, tu fais « Allez !» Évidemment, tu sonnes une cloche, et donc y a un peu, on fait des trucs comme ça, c'est très agréable.
Et donc, du même degré que tu vas avoir ce moment avec la cloche d'excitation, il y a forcément, à un moment donné, aussi, tu ne peux pas avoir une ligne qui est que vers le haut.
Non, mais parfois, tu es énervé, parfois, tu es...
On est d'accord.
Oui, non, mais tu peux être énervé. Tu te fais déglingue un matin dans le journal Libération, je ne sais pas qui c'est, le mec qui écrit ça, et tu te fais défoncer. T'es là, mec. Bon, mais ça dure, enfin, ça passe, on s'en fout. Mais
voilà, en tout cas, et j'aime bien cette idée, ça me fait penser un peu à cette philosophie stoïque d'approcher les choses.
Tout à fait.
Avec une forme de distance, qu'elle soit agréable ou qu'elle soit désagréable, et d'y mettre de la distance. Mais sur le moment, au moins les premières secondes ou minutes, voilà, il y a
C'est vraiment léger chez moi. Le stoïcisme, c'est vraiment un truc, probablement la théorie philosophique que j'ai le plus étudiée. J'arrive pas bien toujours à l'appliquer, encore une fois, à titre perso. Si je perds.
Est-ce que c'est quelque chose qui t'inspire et qui...
Je trouve que c'est le. Oui. Et en business, par contre, j'y arrive. Je saurais pas te dire pourquoi, mais c'est. Ouais. Non, prendre du recul sur les événements. Ouais.
Et effectivement.
En fait, il n'y a rien de grave en business. C'est ça mon point. C'est qu'il y a rien, quand tu perds un frère, je ne sais pas quoi, peu importe, c'est grave. Tu ne verras plus jamais, quoi, en fait. C'est vraiment grave, quoi. Il y a des gens qui sont au chômage, il faut régler ça, il faut le faire bien, il faut aider, etc., etc., etc. D'ailleurs, j'ai planté des boîtes. Mais il n'y a rien de grave. Alors qu'en perso, je prends les choses avec gravité sur plein de sujets, quoi. Ce qui est normal, d'ailleurs.
Et juste parce que pour reprendre l'exemple que tu viens de donner, est-ce qu'il y a un sujet perso qui a été suffisamment grave pour que, par contraste, le reste ne paraisse pas grave?
Oui, une rupture amoureuse. Ouais.
Donc ça a créé une barre de « ça, c'est grave, donc le reste,
ça m'a plus. » Ça m'a défocus un petit peu, oui. Bah oui, parce que ça devient grave, du coup, ça prend 95% de ta tête. Et des sujets de politique cash ou de un client qui n'a pas signé, t'as perdu 20 000 balles sur un client. Bah, bon. D'ailleurs, c'est probablement un des dangers quand tu diriges quelque chose, c'est de ne pas avoir des trucs graves, enfin que ton cerveau pense grave en tout cas, et qui viennent te perturber dans ton focus quotidien. Parce que d'un coup, si t'as un sujet de famille ou des trucs graves en perso, ta boîte, enfin, au final, t'arrives le matin, tu fais de l'Excel, ça peut pas être sur le même plan. Et encore une fois, si Miro venait à s'arrêter, ce qui n'est pas du tout évidemment mon envie, on se revoit dans 5 ans, je serais en train de vendre des micros et je serais très heureux comme ça. Tu vois. Voilà. Alors par contre, si j'ai perdu quelqu'un de très proche, bah, ouais, dans 5 ans, je serais encore pas heureux. Enfin, j'aurais rattrapé mon... Mais je veux dire, ce sera encore un trou dans la tête. Quoi.
Alors là, c'est une petite série, questions rapides, réponses rapides. Tu peux prendre le temps si tu as envie, hein, dans les questions. Une citation préférée.
Je me presse de rire de tout, de peur d'en pleurer.
Et dans quel sens elle a pour toi?
J'essaie de prendre les événements graves avec rire avant de me mettre à en pleurer parce qu'ils sont graves.
Un film ou documentaire préféré?
Ouais, documentaire sur la vie de Bill Gates sur Netflix. C'est l'entrepreneuriat, c'est ma passion. Donc, des documentaires bien faits sur des vies de gens passionnantes qui ont fait des choses folles, je peux regarder ça pendant 18 heures de suite. Donc, documentaire de Netflix.
Bill Gates avec le mix écologie, c'est celui-là?
Ouais, parce que je me demande encore ce que je ferai plus tard. J'ai 2-3 idées et les projets qu'il a montés sur le traitement des eaux et ce genre de sujet, les cuvettes, les baissées, tout ça. Je trouve que ce qu'il fait, ce monsieur, c'est absolument exceptionnel. Et donc, ce documentaire, je l'ai vu quelques fois.
Il est bien fait en plus au niveau.
Je l'ai vu quelques fois. Ouais.
Niveau choix des musiques, d'ailleurs, il y a des bonnes petites musiques. Qui met du rythme en arrière-plan.
Maintenant, le documentaire que j'ai vraiment aimé récemment, il y en a eu deux, c'était Tinder Swindler, je le recommande.
Okay.
Et My Worst Roommate. Très important de regarder ça, c'est tu veux te marier, My Worst Roommate.
Tu me l'as vendu. Musique préférée, t'en as une?
Ouais, Don't Worry, Be Happy.
Si tu pouvais poser une seule question à une personne vivante ou morte, que tu la connaisses ou pas hein, d'ailleurs, qui serait cette personne et qu'est-ce que tu demanderais?
Ce que je demanderais, je sais ce que je demanderais, je demanderais pourquoi on est là. Ça, c'est un sujet qui m'obsède.
Ah, c'est qui cette personne?
Par contre, qui est capable de me répondre?
Oui, c'est ça, d'accord.
Jésus. Non, je sais pas. Moïse.
Donc, pourquoi on est là, c'est une question qui t'obsède.
Ah ouais, vraiment.
C'est quoi, c'est le sens derrière?
J'ai 2-3 problèmes psychologiques ou psychiatriques, si tu veux. Le premier, c'est d'être dans les détails sur tout ce qui est design. Le deuxième, c'est de pas être tranquille dans la vie. Je pourrais pas être des métiers magnifiques sur lesquels je trouve que ça va pas assez loin sur le long terme. Je sais pas, moi, tu prends un site. Ça, heureusement, c'est un métier magnifique. Heureusement qu'il y en a qui... Mais je ne pourrais pas parce que j'aurais l'impression de ne pas répondre à cette question. Pourquoi on est là? On ne peut pas être là juste pour éduquer. J'ai besoin de trouver une réponse de pourquoi je suis là. Mais ce n'est pas pourquoi je suis là, c'est pourquoi l'être humain est là. Et ça, c'est un truc qui me prend la tête pas mal de temps chaque jour, quand même.
Et dans les meilleures hypothèses que tu as trouvées, c'est quoi? Ou celle qui te parle?
La vraie réponse, c'est pour rien, probablement. C'est juste une évolution animaux qui fait que, bon, on n'est pas plus qu'un animal qui a mieux évolué. On a la chance d'avoir un petit bout de cerveau dans la tête qui fait qu'on se permet de tuer tout le monde à part nous-mêmes. Je parle des animaux.
Tu l'aimes bien?
Elle est malheureusement très plausible, mais j'ai du mal à m'y résoudre.
Qu'est-ce que t'aimes le plus dans ce que tu fais dans ton travail et qu'est-ce que t'aimes le moins dans ce que tu fais?
L'innovation.
Donc, c'est ce que t'aimes le plus.
Quand t'as un peu de trésorerie, tu peux aller loin dans l'essayer de chercher un truc qui donne un peu de sens à tout ça, justement. Ce que j'aime le moins, le management.
Un mauvais conseil que tu trouves qui est trop donné aux gens dans l'entrepreneuriat, il est très répandu et tu trouves, toi, t'es pas d'accord.
Faire un BP.
Okay.
Un business plan. Dès que les mecs font des business plans, ils prennent 2 mois à faire des business plans qui n'ont absolument aucun intérêt. Que tu commences ta boîte de micro, tu te rends compte qu'en fait, tout est faux. Mmh. T'as perdu beaucoup de temps pour rien.
Ta relation au sommeil, elle est comment?
Très, très nulle. J'étais debout à 4h du matin ce matin, donc sur un canapé à travailler parce que j'arrivais pas à dormir.
Une des meilleures décisions que t'aies prises?
Te rencontrer.
C'est beau. Une des choses que tu fais le matin de manière systématique?
Un bain.
Ah oui, et pourquoi tu prends un bain froid?
Parce que c'est là où je réfléchis.
Ok, ça te met dans un mode de créativité.
Exactement. Je prends ça tous les matins.
Une erreur que t'as eu dans, entre guillemets, erreur. Il y en a pas vraiment, mais quelque chose que t'as fait et t'as beaucoup appris. Pour ne pas refaire la même chose.
En privé ou en pro?
Ah, en privé, allez.
En privé, j'ai pu avoir un comportement déplacé une fois qui m'a valu une rupture que j'aurais pu éviter. Je ne le referais pas.
Et en pro, t'en as un comme ça?
Prendre un mauvais avocat, pas cher. Voilà, tu payes 6 fois le prix derrière.
Une personne qui nous regarde là pour clôturer, je ne sais pas, un jeune qui a envie de se lancer dans le business ou qui est, ou même d'ailleurs autre, un message important pour toi, tu vois, une des questions que j'avais, c'est si tu pouvais mettre marquer un message dans le ciel que plein de gens pourraient voir. C'est ma dernière question. T'aimerais marquer quoi?
Alors, j'aime pas trop ces phrases débiles qu'on met sous une story Instagram en se mettant en maillot de bain pour une piscine, mais j'aurais tendance à écrire un truc du genre lance-toi ou fais un truc comme ça. Il y a 3/4 des gens qui se lancent pas parce qu'ils ont peur de se lancer. Et on en revient un peu au sujet que je disais tout à l'heure. Je vois pas pourquoi les gens. Enfin, je l'entends, je l'écoute, je réponds. Je vois pas pourquoi les gens ont peur de se lancer. Surtout quand t'es un peu jeune. T'as pas encore d'enfant, etc. Machin. En fait, quitter son boulot. En plus, il y a le chômage maintenant, souvent en France d'ailleurs, c'est une bonne chose probablement. Et se lancer, ça ne coûte vraiment rien. Et donc, il y a une palanquée de personnes, tu dois en connaître autant que moi, qui ont soit 35 ans, soit 65 ans, et qui ont la phrase suivante, je regrette de ne pas avoir lancé quelque chose, j'avais cette idée-là, etc.
Oui, c'est d'ailleurs pas forcément une entreprise, ça peut être autre chose.
Ah oui, ça peut être tout plein de trucs. Et j'avais vu une étude de la fameuse, un peu de name-dropping, de l'université d'Harvard, qui avait fait, j'ai vu ça peut-être il y a 10 ans, ça m'a marqué, ils avaient fait un sondage, ou une étude, ils avaient posé des questions en fin de vie, 80, 85 ans, c'est pour définir le mot fin de vie, mais la question, qu'est-ce que vous regrettez dans votre vie? Et à 96%, le chiffre est précis, c'était celui-là, les gens regrettaient les trucs qu'ils n'avaient pas fait. C'est pas les trucs qu'ils avaient fait. C'est pas je regrette d'avoir divorcé, je regrette d'avoir fait je sais pas quoi, des trucs, genre c'est une bêtise, d'avoir tué quelqu'un, bref. Il regrette de pas avoir fait quelque chose, c'est fou quand même. De pas avoir fait le tour du monde, de pas avoir, voilà. Encore aujourd'hui, j'ai des gens autour de moi qui ont 28, 30 ans, etc. Et qui, mon rêve, c'est de. Mais combien de fois j'entends ça? Mon rêve, c'est de. Je comprends pas pourquoi ils quittent pas tout le lendemain pour le faire. À ce moment-là, quand tu as 45 ans, 3 emprunts immobiliers, etc., c'est peut-être un peu plus compliqué. Encore que tu as encore une fois le chômage maintenant pour pouvoir faire ça, ou tu as les aides de l'État pour le faire. Voilà, et donc j'aurais probablement mis une story avec un truc dans le ciel, un avion qui passe et lance-toi.
Trop bien, merci en tout cas. C'est vraiment top, merci Thomas.
Merci.